Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, c'est parti, il est 6h57 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On est ensemble jusqu'à 9h, Manu Le Chypre, Arthur Chevalier, ma compagne comme bonjour. Tous les jours jusqu'à 9h. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Les résultats des élèves français, c'est simple, on n'a jamais été aussi mauvais. Plus bas, historique, c'est ce qui ressort de l'étude PISA réalisée donc tous les 3 ans. Baisse de 16 points en mathématiques, 4 points en sciences, 18 points en compréhension écrite. Dans 10 minutes, la spécialiste de l'éducation, Marie-Caroline Missire, sera dans ce studio. Elle estime que c'est encore possible d'inverser la tendance. Franchement, possible, Arthur ?
Franchement, le problème, c'est que c'est à l'échelle du monde. Hein. Les gens savent moins bien lire et moins bien compter. C'est l'effondrement de connaissances, c'est le retour du Moyen-Âge. Voilà ce qui nous attend.
Emmanuel ?
Non, ça peut aller très vite. On peut se redresser très vite. Il y a des pays qui l'ont fait, l'Allemagne au début des années 2000. Plus récemment, l'Angleterre, le Portugal, des États américains comme le Mississippi, à condition de traiter les bons sujets et pas, par exemple, de se focaliser en permanence sur le calendrier scolaire, les vacances, la durée de la journée, etc. Il y a des vrais sujets de fond à traiter.
Tout n'est pas fichu.
Ah, pas du tout.
Pour améliorer les résultats des élèves, ne manquez pas aussi à 7h50 Charles Consigny. Vous le savez, tous les jours désormais à 7h50, c'est la proposition politique concrète. Ce matin, Charles Consigny, il veut une heure d'études obligatoires par jour pour chaque élève en difficulté. On l'entendra à 7h50 et vous venez évidemment en débattre avec lui. Une loi sur la transparence salariale dans les entreprises, elle sera présentée demain par la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Aurore Berger est notre invitée à 7h40. Je l'interrogerai aussi sur la polémique autour de la Tour Eiffel. Des femmes salariées obligées de se cacher pendant la visite d'une délégation hindoue. Faut-il des sanctions ? La ministre chargée de l'égalité femmes-hommes sera donc à 7h40 sur RMC. Et puis on va débattre des prix du carburant. Ils sont au plus haut. Est-ce qu'il faut bloquer les prix ? Est-ce qu'il faut plafonner ? Est-ce qu'il faut baisser les taxes ? Je poserai la question à 8h30 au patron de coopérative U, les magasins U, Dominique Schelcher. Il est l'invité du face-à-face. Tout cela vous fait réagir. Je vous attends notamment sur la question du carburant. Le 32-16 vous est ouvert bien sûr. Et le WhatsApp 06-12-424-424. Excellent réveil à tous, très belle journée. Merci d'avoir choisi RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On n'a jamais fait pire. Les mauvais résultats des élèves français au classement PISA font beaucoup réagir ce matin. Les écrans et les réseaux sociaux sont pointés du doigt. Les recettes fiscales de l'État sur les carburants repassent dans le vert. Cela ne devrait pas durer. Les prix à la pompe repartent à la hausse. Conséquence, la consommation diminue. Et Lille, qui rate ses débuts en Ligue des Champions, renversé 3-2 hier soir par le Betis Séville. À suivre ce soir l'entrée en lice du PSG.
L'inquiétant niveau scolaire des élèves français.
Et c'est à la une de toute la presse ce matin, la dégringolade, titre Le Parisien aujourd'hui. En France, en chute libre, ironise Libération, référence à l'évaluation PISA visant à évaluer le niveau des élèves dans les pays membres de l'OCDE. Et les résultats ne sont pas bons, ce sont même les pires depuis la création il y a 26 ans de ce classement. Les scores en compréhension de l'écrit et en mathématiques des élèves de 15 ans sont catastrophiques et sur le terrain, ces professeurs que vous avez rencontré, Rachel Sadoudine, le confirme.
Professeur d'anglais dans un lycée de Montbéliard, dans le Doubs, Sébastien Veille est formel.
On met beaucoup moins de très bonnes notes, hein. Ça c'est évident. Il y a eu un nivellement, on a de moins en moins de très bons élèves.
Enseignant depuis 26 ans, il le constate.
Il y a quelques années, vous aviez des élèves qui arrivaient en seconde et qui, dans ma discipline, maîtrisaient toutes les bases, avaient un niveau solide. Désormais, ils sont très très rares ces élèves-là. Et c'est beaucoup plus difficile après de tirer les classes vers le haut.
Son explication, des élèves de moins en moins concentrés, distraits. Et ça, pour Jérémy Fontagneux, prof de sciences économiques et sociales en Seine-Saint-Denis, c'est à cause des...
Les écrans, beaucoup, les réseaux sociaux, énormément, l'intelligence artificielle aussi. Tout ça donne le sentiment que finalement, l'école n'est pas forcément si importante que ça. Très vite, ils se détournent de ce que nous leur demandons de faire. Même s'ils peuvent avoir des facilités, ils n'ont pas plus envie de s'investir dans leur scolarité.
Un problème accentué par des classes surchargées en seconde, selon le syndicat national des lycées, qui demande une meilleure rémunération des professeurs.
Les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place dans nos vies, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, utilisés par 9 Français sur 10, résultat d'une étude que Choisir Ensemble, que vous dévoile RMC ce matin, et c'est beaucoup trop pour une personne sur deux qui reconnaît y passer trop de temps. Un rendez-vous ce mercredi à Bercy où sont attendus les distributeurs de carburant. Il sera question des prix au plus haut, 2,29€ le litre de gazole, 2,12€ pour le sans-plomb 95, cela n'est pas sans conséquence sur les recettes fiscales de l'État. et c'est une information que vous révélez à RMC hier soir, Alexandre Thibault. Elle se retrouve à nouveau dans le vert.
Oui, mais un tout petit vert, dit-on du côté de Bercy. Jusque-là, l'État évoquait une baisse de ses recettes fiscales sur les carburants de 80 millions d'euros sur les 6 premiers mois de l'année, en comparaison aux 6 premiers mois de l'année dernière. Conséquence logique de la guerre en Iran, les prix à la pompe s'envolent, la consommation baisse. Ces 9 millions par rapport à l'année dernière, entre mars et août, sont dus à une hausse de la consommation, notamment le mois dernier, car même si les prix étaient toujours élevés, les Français sont quand même parti en vacances. Prudence tout de même, 9 millions, ça ne pèse pas beaucoup dans la balance, nous dit le ministère. D'autant que la consommation de carburant recule à nouveau sur les 10 derniers jours. Et si cette baisse se poursuit, la tendance peut vite s'inverser.
Et ce matin, le baril de pétrole frôle la barre des 100$. Le conflit reprend, lui, au Moyen-Orient. Cela ne devrait pas arranger les choses. 2 bateaux américains, 8 pétroliers et 10 autres navires ont été attaqués par l'Iran dans le Golfe et en Jordanie. Représailles aux frappes américaines contre 5 pétroliers iraniens hier soir. RMC, il est 7h04. Coup de pression ou main tendue. Édouard Philippe prépare déjà la suite tournée vers les législatives. Après la présidentielle, pour son premier comité de campagne hier soir, le candidat Horizon a proposé de réunir ses concurrents de droite et du centre fin octobre, début novembre. L'idée est simple, Thomas Baker s'appuyait sur les sondages pour tenter de rassembler.
Oui, pour un proche d'Édouard Philippe, c'est indéniable. Il y a un avant et un après l'été. D'abord, une rentrée à droite toute, à Mayotte, pour avancer des propositions dures sur l'immigration, à Alès, pour marteler son idée d'état d'urgence narcotrafique. Un de ses stratèges ne s'en cache pas, on veut siphonner Retailleau, lâche-t-il, les yeux rivés vers les 7-8% dont le candidat LR est crédité dans les sondages. Si on récupère la moitié, on plie le match, veut croire un de ses soutiens. Hier soir, Édouard Philippe a donné rendez-vous à la Toussaint à tous les dirigeants du bloc central dans l'optique d'obtenir une majorité après la présidentielle. Une initiative déjà torpillée par Bruno Retailleau hier soir. C'est une réunion de macronistes. Pour les macronistes, ce sera sans moi.
La nuit a été heureusement plus calme. Réaction du maire de Chambéry, Thierry Repentin, ce matin sur RMC après la mort d'un conducteur retrouvé blessé par balle à la tête lundi soir en marge d'un contrôle routier ayant entraîné une nuit de violence urbaine entre lundi et mardi. La mise en examen d'un homme écroué hier soir à Paris, soupçonné d'avoir importé des stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs lors d'un convoi durant lequel 930 kilos de cocaïne ont été saisis durant le week-end.
7h05 sur RMC, deux tableaux du peintre Renoir, toujours dans la nature ce matin.
Dérobé hier matin dans un musée de Cagnes-sur-Mer par deux voleurs. Ils sont toujours en fuite et pour eux le plus dur commence. Traqué par l'OCBC, l'Office Central de Lutte contre le Trafic des Biens Culturels en charge de l'enquête, car s'ils veulent monétiser leur butin, il va falloir le revendre. Et la tâche sera compliquée, nous dit le journaliste Luc Lariba.
Les bijoux du Louvre ou même les objets qui sont volés dans les églises, dans les châteaux, dans les demeures privées, il y a l'aspect matériel de l'objet qui peut être fondu et la plus-value est plus importante. Alors qu'un tableau, on va pas repeindre par-dessus un tableau de Renoir. C'est bien beau de les voler, mais il faut pouvoir les refourguer. Et ces tableaux-là, ça passe pas inaperçu. Le premier receleur qui va recevoir les tableaux, il est sûrement déjà au courant et il a déjà prévu un circuit pour revendre ou pour faire circuler ce bien-là.
Les débuts compliqués de Lille en Ligue des Champions, battu 3-2 par le Betis Séville. Les nordistes peuvent avoir des regrets ce matin. Tout a basculé, Jean Baumel, au retour des vestiaires.
Malgré une bonne première mi-temps en menant 2-1, le LOSC a sombré au début de la deuxième en encaissant 2 buts en 4 minutes pour le plus grand regret des supporters lillois.
On aurait pu vraiment mieux faire. Sur la deuxième mi-temps, on se loupe vraiment fort.
En fait, il y a eu 5 minutes où on n'était pas présent en début de deuxième mi-temps et c'est ça qui nous a mis dedans.
Et le cauchemar a continué avec l'expulsion dans la foulée d'Ethan Mbappé, auteur d'un coup de coude sur le visage d'un joueur du Betis Séville. Une faute de jeunesse pour l'entraîneur du LOSC, Davide Ancelotti.
Il faut comprendre qu'on doit gérer les émotions. Et ça, c'est quelque chose qui a payé Ethan. Il va apprendre de ça parce que c'est un jeune joueur. Je pense que c'est le premier qui est désolé, qui sait qu'il ne peut pas faire ça.
Le milieu offensif lillois, Gaëtan Perrin, était très déçu à la fin du match.
Bien sûr que la défaite de ce soir est frustrante, qu'il y avait la place de faire mieux. On en est tous conscients. Il va falloir s'en servir, apprendre de nos erreurs.
Avec cette défaite, le LOSC devra vite se rattraper chez le champion d'Angleterre, Arsenal, le 13 octobre prochain.
À retenir également la victoire du Real Madrid 2-1 face à l'Inter Milan avec un but. Kylian Mbappé, ce soir le PSG remet son titre en jeu. 21h sur RMC opposé au Slovan Bratislava et dans les rangs du club de la capitale, ils sont 10. 10 à prétendre au Ballon d'Or, seul Désiré Doué est absent de la liste de 30 noms dévoilés hier soir pour le trophée qui sera remis le 26 octobre prochain, ce sera à Londres.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08 et on en parlait à l'instant. Le grand décrochage, les résultats des élèves en France n'ont jamais été aussi mauvais. C'est ce que révèle l'étude PISA rendue publique hier. Moins 18 points en compréhension de l'écrit, moins 16 points en maths. Bonjour Marie-Caroline Missir. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes spécialiste de l'enseignement. Vous dirigez un groupe de réflexion sur l'éducation et la jeunesse. Qu'est-ce qui se passe ?
Je crois qu'on a passé une étape en termes de déclin, c'est un mot usé qui va s'inviter probablement dans la campagne, mais je pense qu'il faut vraiment sonner l'alerte pour l'éducation.
Sonner l'alerte, c'est ce que vous nous dites, vous qui êtes prof, vous qui êtes parent, n'hésitez pas, appelez-nous au 3216, on en parle dans un instant, 7h08.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 sur RMC et à la télévision sur RMC Story. Très très moyen, carrément médiocre, peu... Oh, vraiment mieux faire. Je vous parle du niveau des Français à l'école et ce n'est pas moi qui le dis, mais la grande étude PISA, on a découvert les résultats hier, ils sont très inquiétants. Marie-Caroline Missir, vous êtes toujours avec nous, vous êtes spécialiste des questions d'éducation, vous dirigez un groupe de réflexion sur l'enseignement qui s'appelle Vers le Haut et clairement là, il faut remonter vers le haut. Juste avant de vous interroger, je voudrais qu'on sache exactement de quoi on parle. Ce classement PISA, il dit quoi ? Bérangère Bocquillon, chef du service société d'RMC, vous avez lu ce rapport en intégralité. Qu'en retenir ?
Alors, il faut retenir que les résultats n'ont jamais été aussi bas, notamment en mathématiques et en lecture. Les élèves de 15 ans, ils ont quasiment perdu une année de connaissances en mathématiques en seulement 4 ans. C'est-à-dire qu'en 2022, les élèves de 15 ans avaient un niveau seconde et maintenant, ils ont un niveau troisième. Répondre à des questions sur un texte long, un peu complexe, qui demande de la concentration, c'est devenu trop difficile pour un tiers des élèves français de 15 ans. Mais c'est pas tout. Le nombre d'excellents élèves a été divisé par 2 en mathématiques et quasiment par 3 en compréhension de l'écrit depuis 2022, en 4 ans seulement. Donc il y a quasiment plus de très bons élèves en France. Et il faut savoir que les élèves dont le niveau a le plus baissé, ce sont les garçons issus de milieux favorisés. Alors la France est toujours dans la moyenne des 91 pays de l'OCDE, donc ça pourrait nous rassurer. Mais d'abord, elle est dans la moyenne basse, et puis il faut savoir que la moyenne des pays de l'OCDE, c'est la plus faible de son histoire.
Comment on explique ces résultats catastrophiques ?
Alors par des raisons assez simples. La chute du temps de lecture, vertigineuse, la consommation de réseaux sociaux qui est souvent très passive, et puis une autre explication de l'étude, les parents s'investissent moins dans le suivi scolaire de leur enfant, c'est particulièrement vrai en France, les parents demandent de moins en moins à leurs enfants ce qu'ils ont appris à l'école, ce qu'ils veulent faire plus tard, ils demandent même moins les notes, ils peuvent les lire sur l'application Pronote. Et pourtant, toutes ces discussions ont un gros impact sur la réussite des élèves, l'OCDE appelle donc à une remobilisation des parents.
Merci Bérangère. Marie-Caroline Missir, vous partagez le constat ? Est-ce que vous partagez aussi les explications ?
En partie seulement. Effectivement, vous avez parlé du rôle des parents qui est bien souligné par l'OCDE, qui a été repris par le ministre dans son interview et ses interventions hier notamment. Mais il y a un autre point qui est souligné par l'OCDE qui est très intéressant, c'est le soutien perçu des parents certes, mais des éducateurs dans leur ensemble. Et des enseignants. Et ça nous donne quand même des pistes de progrès. Parce que je suis un peu dubitative.
Ils désinvestissent les profs eux-mêmes.
En fait, c'est-à-dire qu'un enfant, quand il arrive en classe, et l'OCDE le montre bien, et notamment les enfants français, ils ont un capital de motivation qui est supérieur au reste des pays de l'OCDE. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du classement. Nos enfants arrivent motivés, c'est-à-dire qu'ils ont une croyance dans le fait que l'apprentissage va les faire progresser. Sauf que ça ne se traduit pas en résultats. Et l'OCDE nous dit, il y a 2 leviers pour ça. Il y a le soutien perçu de leurs enseignants, qui est très important et qui est très en dessous chez nous, et le soutien perçu des parents qui décrochent de manière très étonnante.
Les parents, on va y venir dans un instant.
Il n'y a pas beaucoup d'élèves qui passent autant de temps devant les profs que les élèves français.
Absolument, et ça, les rythmes scolaires, on a peu d'indicateurs là-dessus, mais on sait très bien qu'on est les champions, notamment en primaire.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Pardon, ça veut dire quoi ? Quand vous dites qu'ils ne sont pas investis, les profs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, ils ont face à eux un enfant hyper motivé. Et quoi, ils le découragent ?
C'est qu'on a un capital de départ qu'on n'arrive pas à transformer en résultat. Donc moi, je suis très dubitatif par rapport au fait qu'on cible des raisons extérieures, c'est-à-dire, bon, c'est les réseaux sociaux, c'est les écrans, c'est telle réforme, c'est tel ministre, etc. En revanche, vous l'avez très bien dit, ce que dit l'OCDE, c'est remobilisons-nous collectivement pour réussir.
Mais ça passe par quoi?
Et ça passe très concrètement par des mesures qui ont été présentées hier dans une tribune par le Conseil d'analyse économique, par 20 économistes, dont notre prix Nobel quand même, Philippe Aguillon, que j'ai eu la chance de signer, avec des mesures très concrètes. On est à quelques semaines du budget. D'accord. Chaque année, il y a une lutte avec Bercy qui récupère des moyens. Donc ça passe par l'investissement dans la formation continue des enseignants. On est un pays, on se compare à Singapour qui truste les premières classes du classement. Singapour, c'est minimum 100 heures de formation continue par an. Vous savez, pour les profs du secondaire français, combien y a-t-il d'heures de formation obligatoire?
Ça se compte sur les doigts de la main?
Non, c'est zéro. Chez nous. D'accord? Donc moi je veux bien qu'on cible les réseaux sociaux, etc. Mais la formation continue.
Ça veut dire que nos professeurs ne continuent pas à se former tout au long de leur enseignement.
Mais vous savez que c'est assez intéressant parce que ce classement, ce qui révèle aussi, il faut quand même le dire, c'est le basculement de l'Ouest vers l'Est, hein, puisque tous les pays de l'OCDE décrochent. Donc c'est un petit peu à l'image de ce qui se passe économiquement quasiment civilisationnellement parlant. En Chine, par exemple, on assiste exactement au mouvement inverse. C'est-à-dire que, après avoir mis énormément de pression sur les élèves, on a constaté que les élèves faisaient des dépressions, et maintenant il y a une pression sur les parents, de la part de l'État chinois, pour leur dire, arrêtez de leur faire des devoirs, baissez la pression, parce que sinon, ils vont péter des plombs, ce sont des enfants, ce ne sont pas des chevaux. Donc du coup, non mais ça prouve bien que structurellement...
Est-ce qu'il y a un juste équilibre entre ce surinvestissement excessif, effectivement peut-être à l'Est comme vous dites, et nous... Je voudrais donner la parole à Nicolas qui nous appelle de Saint-Omer. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, vous êtes chef d'entreprise, vous bossez tous les deux, vous êtes votre femme, et en fait vous dites on est débordé, on n'arrive pas à s'occuper des enfants.
Débordé c'est peut-être pas le mot, mais quand on rentre à la maison... les enfants ont une grosse journée, on a tous une grosse journée. Faire encore les devoirs, c'est source de tension. Je trouve que nous, on est là pour les éduquer, mais l'instruction, c'est à l'école.
Ils ont donc quel âge, vos enfants, Nicolas?
Ils ont 9 et 12 ans.
Donc il y a plein de devoirs, on est dans des moments où il faut les accompagner, quoi. Ouais.
Moi, je trouve qu'ils devraient, à l'école, à la fin de la journée de l'école, être encadrés par un ou deux profs qui disent, voilà, on fait les devoirs tous ensemble. Ça nivellerait aussi les égalités. Parce que quand on rentre à la maison, on compte trop sur les parents. Les parents n'ont pas tous également le niveau, ni le temps, ni l'envie. Et parfois aussi un manque de connaissances, sans critique, mais c'est pas toujours évident.
Moi, je suis dépassée par le niveau de maths assez vite.
Pédagogie pour leur apprendre. Moi, je suis pas formée pour apprendre les enfants à ça. On a chacun nos métiers. Donc voilà, moi, je trouve que les enfants doivent aller à l'école pour apprendre. Ils rentrent de l'école, on pose le sac, on passe un moment en famille. On est là pour les éduquer, mais pas pour les instruire. Voilà, les instruire, c'est à l'école et on doit encadrer les devoirs à l'école.
Je voudrais que Marie-Caroline Missire puisse vous répondre là-dessus, à la fois sur l'encadrement des devoirs, on avait promis les études pour tous, mais aussi sur ce mot de pédagogie que vient de prononcer Nicolas. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça qui manque aussi, y compris à nos profs, vous le dites, ils sont pas suffisamment formés au fur et à mesure sur l'évolution de la pédagogie, sur les nouvelles méthodes de la pédagogie. Mais nous, les parents, on n'est pas fait pour ça non plus.
Alors, les parents, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe à l'école pour pouvoir accompagner leurs enfants.
Oui, mais on n'a jamais été aussi au courant. C'est-à-dire que moi, je vois entre mes aînés et mes plus petits, depuis, il y a Pronote, École Directe, tout ce que vous voulez, on n'a jamais eu autant de connaissances en temps réel, de leurs notes, de toutes les informations, etc.
Je parle de qu'est-ce qu'il doit savoir à la fin de l'année. Il en est où? Parce que c'est très bien d'avoir ces éléments-là tous les 3 ans quand on sort PISA, mais c'est quand même mieux de savoir ce qui se passe dans la classe.
Donc ça, c'est un premier extrêmement absolument. Il y a un point où je voulais votre avis.
Emmanuel.
Il faut privilégier certaines approches pédagogiques à partir des résultats de la recherche, notamment l'enseignement explicite. C'est quoi l'enseignement explicite?
L'enseignement explicite, on a yoyoté, et c'est ça le problème, entre différentes méthodes, différentes réformes, différents gouvernements, etc. L'enseignement explicite qui a été appliqué dans certains pays, ça consiste à ne pas laisser les élèves subodorer finalement là où on veut en venir quand on apprend quelque chose, mais de dire voilà ce qu'on va apprendre. C'est pour ça que je dis les objectifs, il faut les faire connaître aux parents. Ce trimestre-là, vos parents, vos enfants, ils sont en CM2, ils vont apprendre ça avec tels objectifs. C'est ça l'enseignement explicite. Expliciter le but de l'apprentissage et dire voilà ce qu'on va apprendre, voilà comment on va le faire, voilà où on va. Et donc, votre téléspectateur a tout à fait raison. Effectivement, on rentre le soir, les journées sont longues pour tout le monde. Il y a un dispositif qui s'appelle Devoir fait, vous vous souvenez, qui a été lancé. Le problème, c'est que ce dispositif a été lancée, une réforme a été lancée, elle s'arrête, elle recommence, on ne sait pas où on en est. L'OCDE dit très bien que la continuité des politiques éducatives est un facteur de succès. C'est ce que disent aussi les économistes dans cette tribune que j'ai citée.
Vous la recommandez, cette tribune? Effectivement, je recommande à tous d'aller la lire. Elle est publiée sur le site du journal Le Monde et vous l'avez signée avec Philippe Aguillon, prix Nobel d'économie. C'est quand même un tournant, hein, Arthur.
Ah, mais c'est un changement civilisationnel, c'est très simple. Il n'y a plus d'alphabétisation et on ne sait plus compter. C'est un retour au Moyen-Âge, c'est clair.
Merci Marie-Caroline Missire d'avoir répondu à nos questions spécialisées questions d'enseignement. Votre groupe de réflexion s'appelle Vers le haut. Ne manquez pas à 7h50 la proposition de droite aujourd'hui. C'est Charles Consigny. Imposons une heure de soutien par jour pour chaque élève en difficulté. Il défendra son point de vue à 7h50. Mais pour l'heure, il est 7h21. On remonte le temps, comme chaque jour, avec Arthur. Arthur, Donald Trump a annexé les Antilles françaises sur une carte. La Guadeloupe et la Martinique aux couleurs de l'Amérique. Voilà ce qu'il a fait. Et pourtant, elles sont bien françaises et depuis plusieurs siècles.
Elles sont françaises depuis 400 ans, Apolline, les Antilles. Hein. Et si on est encore une grande puissance militaire, eh bien c'est grâce aux Antilles françaises.
Vous nous le dites dans un instant, il y a aussi Arnaud Demange qui arrive. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22, on remonte le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, Donald Trump a publié hier une carte des États-Unis. Et surprise, elle englobe les Antilles françaises et les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon au large du Canada qui passent sous drapeau américain.
Exactement, sur cette carte, le Canada, le Mexique, le Groenland et même l'Islande font partie des États-Unis, hein, donc ça va un peu loin quand même. Le président américain est assez familier de ce genre de choses, mais jusqu'ici, les territoires français étaient épargnés par les délires de Donald Trump. Alors à ce stade, le Quai d'Orsay n'a pas réagi, mais il faut prendre très au sérieux ces provocations, puisque bien souvent, elles sont suivies de déclarations publiques, même de menaces. Hein. Le Canada et le Groenland en ont déjà fait les frais. L'Islande a d'ailleurs déjà convoqué l'ambassadeur américain pour des explications.
Les Antilles françaises, c'est un enjeu stratégique.
Et oui, puisque c'est un outil de notre puissance. Hein. La France, c'est le deuxième empire marin du monde après les États-Unis. Et pour être honnête, c'est un peu une des seules choses qui nous reste pour compter dans le jeu international. Et les Antilles françaises jouent un rôle majeur. Hein. Ça permet notamment à notre armée de se projeter très loin de la métropole. Et ça assure une présence française de l'autre côté de l'Atlantique avec près de 800 000 habitants aux Antilles. Hein.
Ces îles sont françaises depuis longtemps?
Oui, ça on s'en rend pas compte. Ça fait très longtemps qu'elles sont françaises. La Guadeloupe et la Martinique sont devenues françaises en 1635, sous le règne de Louis XIII. Hein. Elles sont donc françaises depuis plus longtemps que la Corse, Nice, la Savoie ou encore la Lorraine. C'est une part essentielle de notre identité et de notre nation.
Entre la métropole et les Antilles, c'est une histoire compliquée. Hein.
Oui, c'est compliqué, puisqu'évidemment, déjà ces îles, nous les avons colonisées et elles ont été au cœur de la traite négrière et de l'esclavage, un commerce sordide d'êtres humains qui a concerné beaucoup plus d'un million d'esclaves africains déportés aux Antilles à partir du XVIIe siècle. Ce qui évidemment a provoqué beaucoup de révoltes sur ces îles, des révoltes que la France a réprimées avec une violence sanguinaire. Et il faut attendre 1848 pour qu'on abolisse définitivement l'esclavage et qu'on fasse des Antillais des Français libres. L'égalité administrative arrive en 1946. 46, c'est la date où la Guadeloupe et la Martinique sont devenus des départements français.
Les Antilles, c'est aussi l'Union Européenne. Hein,
oui, c'est justement ce qui agace Donald Trump. Hein. On le sait, le président américain veut défier le vieux continent. D'après un sondage réalisé en 2024, 74% des Martiniquais se sentent fiers d'être européens, donc c'est pas gagné pour Trump. Faut-il répondre à ces provocations? C'est la question qui se pose à Emmanuel Macron ce matin.
On peut Emmanuel. Satisfaire de cet apport géostratégique. On peut pas se satisfaire de la situation économique de ces régions. Vous avez deux fois plus de pauvreté, vous avez deux fois plus de chômage, une situation compétitive qui est très faible. Donc il y a un vrai sujet de modèle économique quand même pour ces territoires.
Il est 7h25, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour. Bonjour Arnaud, à 8h30, mon invité c'est Dominique Schelcher, le patron des magasins U.
Ouais, non, j'ai mis la musique de Harry Potter parce que bah, il ressemble un petit peu à Harry Potter vieux, Dominique Schelcher. En plus, ça correspondait. Bah non, regardez.
C'est pas faux maintenant.
C'est pas faux, c'est pas faux. Alors pensez bien à Pauline à lui souhaiter son anniversaire. Car en ce moment, c'est l'anniversaire gagnant dans vos magasins U. C'est vrai, c'est une vraie opération. Deux fois plus de promos du 8 septembre au 24 octobre. De quand? Du 8 septembre au 24 octobre. Les supermarchés, leurs anniversaires, ça dure des semaines et des semaines. Nous, on fait pas ça, quoi.
Non.
Nous, sur RMC, on n'entend jamais « C'est l'anniversaire d'Apolline de Malherbe, du 21 mars au 3 juillet. Alors, retrouvez deux fois plus d'Apolline sur notre antenne, de 3h du matin à 22h30, tous les jours, week-end inclus. » C'est ça l'anniversaire d'Apolline. Et bon anniversaire, Apo.
Eh ben, merci beaucoup.
En ce moment, chez les distributeurs, c'est la foire au vin. Faites attention à Gabriel Attal. Là, il est en train de faire sa tournée des 1000 bistrots. Après, il va enchaîner les foires au vin chez Dominique Schellcher. Il va dire, Macron, je l'emmerde. Du rouge, encore. Calmez-le. Et avec Dominique, on va parler du pouvoir d'achat. Vous vous souvenez du pouvoir d'achat? C'est vieux, cette histoire. C'est vieux. C'est comme la tectonique, c'est mort en 2011. Tout est tellement cher. Les produits frais. Fin... Si ça continue, le rayon fruits et légumes, ça va devenir une boutique de luxe. Hein. Tu vas rentrer chez Super U, t'auras une vendeuse en tailleur, genre mannequin ukrainienne. Bonjour monsieur, bienvenue dans la maison U. Vous aviez rendez-vous? Oui, enfin, je voudrais des tomates, quoi. Des tomates, excellent choix, félicitations. J'imagine que c'est pour un mariage. Non, c'est pour un gazpacho. Nous avons plusieurs modèles. Veuillez me suivre dans notre salon privé. Et t'arrives dans un salon en velours, avec des affiches de luxe, où il y a Zendaya qui a la joue contre un chou-fleur, quoi. Et Georges Clooney au pied de la Tour Eiffel, qui fait un câlin à une botte de radis. T'es un peu intimidé. Et elle est encadrée avec deux vigiles, avec une cœur de bœuf, posée sur un petit coussinet en velours. Vous pouvez tout faire avec cette tomate, ça se porte avec tout. Attendez, j'ai un client qui arrive chez vous tout de suite. Monsieur de Villepin, vous désirez?
Ma petite culotte de chou pour me faire frotter le derrière par les petits lapins.
Bah lui, il a les moyens de se payer des petites culottes de chou trois fois par semaine pour se faire brouter par des petits lapins. Nous, on n'a pas ça. Voilà. Allez, rendez-vous avec Dominique à
8h30. Et avec vous à 8h15. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Le baril de pétrole à près de 100$ ce matin. Le litre de gazole à 2,29€. Comment faire son plein sans se ruiner? Les clients, vous l'entendrez, ont des astuces. Le gouvernement, lui, veut des solutions des distributeurs qu'il réunit aujourd'hui. Des ministres et leurs équipes moins payées. Ça, c'est la nouvelle piste d'économie symbolique du Premier ministre. Et puis, son expérience des acrobaties ne l'aura pas aidé. Le président du comité d'organisation des JO des Alpes 2030, Edgar Gros-Piron, en passe d'être éjecté de son poste.
Les carburants remplissent à nouveau les caisses de l'État.
C'est une information RMC. 9 millions d'euros de plus de recettes fiscales ces 6 derniers mois comparé à l'an dernier. Et pourtant, quand on regarde ces mêmes chiffres de Bercy, les Français réduisent leur consommation. 2,29€ en moyenne le litre de gazole, 2,12€ le samplon 95. Forcément, ça force à être créatif pour économiser, Martin Lange.
Hélène est mère de 3 enfants. Avec la rentrée, les trajets ont repris et elle s'organise pour limiter sa consommation de carburant.
On fait un peu de covoiturage avec d'autres parents sur notamment les activités périscolaires. On va remplir les voitures. Moi, j'ai un 7 places, donc le mien, il est souvent rempli, ouais.
Entre les entraînements de foot, de handball et les cours de danse, il faut se coordonner.
On avait déjà des groupes WhatsApp, mais là, du coup, ces groupes WhatsApp, maintenant, on l'utilise aussi en semaine pour aller aux différents entraînements, ouais.
Marina travaille dans le secteur du café dans la région lyonnaise. Elle aussi essaie de limiter au maximum ses déplacements.
Je favorise un petit peu plus le télétravail et quand je dois me rendre sur Lyon, c'est forcément en train, ce qui n'était pas le cas avant.
Autre habitude partagée par beaucoup, ne pas remplir tout son réservoir, Shana Namikeu.
20 litres, c'est tout, parce que faire le plein, ça coûte trop cher.
Cette hôtesse de caisse s'astreint à une discipline très stricte.
Quand je sors du travail, j'essaye d'aller faire les courses en même temps pour éviter de faire des allers-retours, tout simplement.
Et limite au maximum les loisirs.
Soit il faut se priver d'un repas pour faire des sorties, ou bien on fait nos 3 repas par jour, mais dans ces cas-là, on se prive de sorties.
Selon la Fondation Jean Jaurès, plus d'un Français sur deux dit avoir renoncé à certaines sorties à cause de la flambée des prix du carburant.
Et face à ces chiffres, il faut plafonner les prix des carburants. Ce sera le parti pris d'Aurélie Trouvé, la députée insoumise de Seine-Saint-Denis, sera l'invitée d'Apolline Matin à 8h10. Ces prix à la pompe qui ne sont pas aidés par un baril de pétrole qui frôle les 100$. Conséquence d'un regain de tension au Moyen-Orient cette nuit, l'Iran dit avoir attaqué 2 navires américains, 8 pétroliers et 10 autres bateaux. Un peu plus tôt ce matin, les États-Unis avaient revendiqué la destruction de 5 pétroliers iraniens. C'est une mesure que vous proposé souvent au 32-16 et selon BFM TV, Sébastien Lecornu l'envisage diminuer les indemnités des membres du gouvernement. Ça toucherait aussi les conseillers dans les cabinets ministériels. Marion Gauthier, ce serait avant tout symbolique en pleine préparation du budget.
Oui, Sébastien Lecornu ne se sent pas de demander des efforts aux Français si le gouvernement n'en fait pas lui-même, juge l'un de ses proches. Le Premier ministre perçoit près de 16 000 € bruts par mois, les autres ministres environ 10 000. Baisser ces sommes alors que Matignon cherche des milliards, cela ne réduira pas le déficit, mais cela participe à la philosophie de justice à laquelle les Français sont attachés, ajoute ce même proche de Sébastien Lecornu, qui a symboliquement déjà l'an dernier aboli les privilèges à vie des anciens premiers ministres ministre et ministre de l'Intérieur et qui penserait aussi à réduire l'indemnité des députés et des sénateurs. Ici, l'entourage de Sébastien Lecornu renvoie vers le Parlement dont la rentrée est en octobre.
Et juste après ce journal, on demandera son avis à une ministre. Justement, c'est Aurore Berger, invitée d'Apolline Matin, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. La politique, c'est aussi la fin de non-recevoir de Bruno Retailleau. Non, il ne participera pas à une réunion des candidats pour 2027 du Bloc central. C'est une idée d'Édouard Philippe, favori de ce camp pour la présidentielle et qui appelle ses concurrents à se ranger derrière lui. Tout juste 2 ans après la mort de Lilian Dejean à Grenoble, RMC vous dévoile en exclusivité ce matin la défense du principal suspect. Lilian Dejean, c'est cet agent municipal tué d'une balle en plein thorax alors qu'il tentait simplement d'empêcher la fuite d'un conducteur qui venait de causer un accident. Ce conducteur, aujourd'hui mis en examen pour meurtre, c'est Abdoul Diallo et Mathias Tesson. Ils contestent avoir eu l'intention de tuer.
Si je pouvais, je ferais tout pour retourner en arrière. Ce sont les mots prononcés par Abdoul Diallo dans le bureau de la juge d'instruction. Celui qui reconnaît avoir tiré à 2 reprises, dont une fois en direction de Lilian Dejean, conteste pourtant avoir eu l'intention de tuer. J'avais peur d'être rattrapé, qu'on me poursuive, mais je ne voulais pas le viser, je ne cherchais qu'à fuir, répète-t-il devant la magistrate. Des propos qui peinent à convaincre Omani, la fille de la victime.
À partir du moment où tu as une arme sur toi, même si c'est que pour te défendre, à partir du moment où tu appuies sur la détente, si tu sais que tu sais quelles sont les conséquences d'appuyer sur une détente.
L'homme de 27 ans au lourd casier judiciaire raconte l'engrenage de ces 2 mois et demi de cavale qui s'achève au Portugal. Je voulais me rendre par respect pour la famille, dit-il, mais plus les jours passaient, moins j'étais crédible aux yeux de la justice. L'homme formule aussi des excuses à la famille. La fille de Lilian Dejean lui répond.
Il va payer pour ce qu'il a fait et ça sert à rien d'en retirer une haine ou d'en vouloir ou quoi que ce soit, parce que maintenant c'est fait. Je suis déjà contente qu'il se rende compte de son erreur. Ça montre qu'il a un minimum humain, au moins qu'il a un cœur, même s'il a tué quelqu'un.
Dans cette affaire, un procès n'a toujours pas été ordonné.
Mathias Tesson, chef du service police-justice de RMC. Nuit plus calme à Chambéry, c'est ce que dit son maire invité du Morning RMC ce matin. La précédente avait été émaillée de violences urbaines après la mort d'un homme suite à un refus d'obtempérer. Les policiers l'avaient retrouvé avec une blessure par balle à la tête, mais eux assurent ne pas avoir tiré. Il est 7h36 sur RMC et ce sera sa dernière sortie de piste. Edgar Groupiron va quitter la présidence du comité d'organisation des Alpes 2030. Ce sont les prochain JO d'hiver en France. Avec Groupiron, on avait pris un ancien skieur spécialiste des bosses, habitué aux secousses, Virginie Fulpin. Ça n'aura pas suffi. Une réunion du bureau exécutif du COJOB doit entériner son départ demain.
Les têtes tombent à la vitesse d'une descente de ski alpin au comité d'organisation des Alpes 2030. La raison évoquée en coulisses, c'est une rupture de confiance. Dernièrement, Edgar Groupiron a essayé de faire recruter 2 de ses proches, mais plusieurs membres du bureau s'y sont opposés. Le courant ne passe plus, ou plutôt il n'est jamais vraiment passé. La goutte d'eau qui a fait déborder la vasque olympique, c'est le report de l'annonce d'un nouveau sponsor qui devait avoir lieu aujourd'hui. Mais les problèmes ne datent pas d'hier. Ça fait des mois que les crises se succèdent. Le directeur général des Alpes 2030, Cyril Linette, avait claqué la porte au moment des derniers Jeux d'hiver à Milan Cortina parce qu'il était en désaccord avec Edgar Groupiron. Ça fait mauvais genre. Comme ça fait mauvais genre de voir le président quitter ses fonctions à la veille de l'arrivée d'une délégation du CIO pour visiter les infrastructures. Dès le départ, le verre était dans le fruit quand Martin Fourcade a renoncé à prendre la présidence du COJOP parce que les désaccords étaient trop nombreux. On ne sait pas encore qui succédera à Edgar Groupiron, mais on peut déjà lui souhaiter bon courage.
Les explications de Virginie Fulpin pour RMC. Le foot, premier match de Ligue des Champions de la saison et première défaite pour Lille. 3-2 hier soir contre le Betis Séville. Ce soir, c'est le PSG qui entre en lice à 21h contre le Slovan Bratislava. Ce sera à suivre sur RMC.
Et puis le Quintet, c'est à Angers, 13h55.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, sa favorite, le numéro 9, Kika Jocelyn. Son outsider, c'est le numéro 7, Cano, le 9 et le 7.
C'était le journal de Victor Pochet, il est 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Nègre, bougnoule, connasse, voilà les propos d'un policier municipal de Carcassonne qui ont été enregistrés sur sa caméra piéton. Ils ont été diffusés par le journal Midi Libre. Bonjour Aurore Berger.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio. Vous êtes la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. J'ai de nombreuses questions que je vais vous poser dans un instant, mais on a appris cette nuit ces propos, ces mots enregistrés sur la radio donc et la caméra de ce policier municipal. J'attends évidemment votre réaction dans un instant. Il est 7h39.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On va bientôt savoir combien gagne notre voisin de bureau. Bonjour Aurore Berger.
Bonjour.
Vous êtes la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Vous présentez demain en Conseil des ministres la loi sur la transparence salariale. Je vous interroge dans un instant, mais je voudrais d'abord que vous écoutiez ces mots qui ont été enregistrés sur la caméra d'un policier municipal. Écoutez.
J'espère que c'est pas un gamin hein, ou quelqu'un qui a percuté par contre.
Non, c'est peut-être un migrant. Un petit Kirikou.
Kirikou dans la savane. Il est percuté. Il est venu en France, il est percuté par un véhicule.
Merde alors. Tout à l'heure, on était sur Carnot, du Bico, du Nègre, du Bico.
Ça, c'est la France, ah, c'est
de
ça.
De l'Afghan, beaucoup d'Afghans. Bon, le père, c'est le père à la base. Hein. C'est lui qui bande et qui a les muscles. Cro-Magnon, ça marchait comme ça. Hein.
Nègre, bougnoule, connasse, voilà certains des propos, outre ceux que vous venez d'entendre, prononcés par un policier municipal de Carcassonne, membre par ailleurs du service d'ordre du Rassemblement National, enregistré à son insu par sa propre caméra piéton. C'est une vidéo de 5 minutes qui a été diffusée par nos confrères du journal Midi Libre. Votre réaction ?
Ce sont des propos qui sont absolument inacceptables. Il n'y a aucune liberté d'expression quand on parle de racisme. C'est un délit. Une enquête judiciaire va pouvoir être ouverte. J'espère qu'il sera immédiatement suspendu par la mairie de Carcassonne de ses fonctions, immédiatement exclu du Rassemblement National s'il était confirmé qu'il en était membre. Mais au-delà du cas personnel, est insupportable parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui a des fonctions particulières quand on est policier municipal, on est là pour faire aussi respecter l'ordre public.
Il prononce
et faire respecter
la loi. Alors même qu'il est en fonction.
Mais on voit que dans notre pays, et malheureusement j'ai eu à réagir un certain nombre de fois cet été, on a une libération de la parole raciste, on a une explosion des actes antisémites et qu'il faut rappeler, puisque vraisemblablement ça n'est pas une évidence pour tout le monde, que ça ne relève jamais de la liberté d'expression, que ce sont des délits et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai souhaité, et on examinera le projet de loi que j'ai présenté en juillet dans les prochaines semaines, aggraver aussi les sanctions parce qu'on se retrouve dans cette atmosphère aujourd'hui qui devient irrespirable pour beaucoup de Français qui en viennent à penser que finalement, est-ce qu'ils ont encore une place dans leur pays, dans notre pays en France, si en permanence on les ramène à une part d'eux-mêmes, à leur origine, à leur couleur de peau, à leur identité, à leur religion. Et cette atmosphère, elle est engendrée aussi par le climat politique. On est en pré-campagne ou en campagne présidentielle, je ne sais pas comment il faut le dire. Il ne faudrait pas que cette campagne présidentielle
devienne... Est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux, les partis différents, là en l'occurrence c'est quelqu'un qui est, semble-t-il, d'après nos confrères du Midi Libre, proche, voire même engagé au sein du Rassemblement National. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que la campagne présidentielle crispe sur ses identités, sur la question de l'origine des uns et des autres ?
En tout cas, on l'a déjà vu à l'œuvre en 2024, c'est-à-dire post-dissolution, élections législatives, et on a vu le niveau d'angoisse que ça faisait naître chez beaucoup de Français, et on a vu un certain nombre de candidats du Rassemblement National qui ont dû être au dernier moment désinvestis, parce que des propos antisémites ici, des propos homophobes là, des propos racistes, ça n'est jamais anodin. Donc soit c'est de l'incompétence parce qu'on ne sait pas qui on investit et qui on choisit, soit c'est un choix délibéré parce qu'il y a une histoire avec laquelle ce parti a grandi et vraisemblablement avec laquelle il n'a toujours pas rompu.
Aurore Berger, vous êtes prête à baisser votre salaire ?
Alors, c'est la question, c'est la transparence salariale.
C'est à la fois la transparence salariale, mais c'est aussi parce que le Premier ministre réfléchit, semble-t-il, à une baisse des indemnités des indemnités des membres du gouvernement et de leurs collaborateurs dans le cadre de la recherche de sous pour le budget.
Écoutez, s'il y a un arbitrage qui est pris, on s'y conformera évidemment toutes et tous. Ce qui compte, en effet, c'est qu'on puisse présenter un budget et qu'on ait surtout un budget pour le pays, évidemment. Et je crois qu'il y a des efforts qui seront à être partagés. Et le premier des efforts, il sera fait par l'État, de toute façon, sur la question des économies budgétaires.
La transparence salariale, c'est une directive européenne que vous allez transposer en France, et transposer, même sur-transposer, comme on dit, c'est-à-dire avec davantage de zèle. Il faudra connaître désormais le salaire moyen de tous les collègues. Une entreprise devra les donner. Pourquoi aller si loin et en même temps avoir quand même attendu jusqu'à présent ?
Alors, il n'y a pas un excès de zèle. Encore une fois, je pense qu'on ne doit pas avoir peur de la transparence. Ce dont on devrait avoir peur, c'est l'arbitraire. C'est l'arbitraire qui crée un moment le doute, les suspicions. Et aujourd'hui, il se passe quoi ? Il se passe qu'on a 14% d'écart entre les revenus des hommes et les revenus des femmes quand on est sur la même durée du temps de travail. Mais on n'est pas sur du poste égal, mais ça c'est une moyenne. Et on est sur 3,6% d'écart. Là, quand on compare vraiment à poste égal, travail égal. Et donc, on a ces 3,6% d'écart inexpliqué. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de pouvoir d'achat immédiatement. Ça veut dire moins de constitution de patrimoine tout au long de la vie. Ça veut dire moins de droits à la retraite en fin de carrière. Donc, l'objectif de cette directive, c'est de garantir, encore une fois, qu'il y ait plus de transparence, qu'il y ait plus d'équité, qu'il y ait plus d'égalité. On n'est pas là pour fliquer, on n'est pas là pour le soupçon. Vous ne saurez pas combien votre voisin de bureau est
on
rémunéré.
Pas nominalement, il y aura une moyenne, qui gagne
il y aura une moyenne sur mais des postes
points,
équivalents.
Il y a Emmanuel deux Lechon. Points sur le... l'efficacité de cette loi. Un, alors le paradoxe, c'est qu'on surtranspose, mais que de l'autre côté, il n'y a pas de sanctions, finalement, pour les entreprises qui
alors, si, il y a des sanctions qui seront
pas vraiment
mises en place.
Alors, ça, c'est si vous communiquez pas du tout les chiffres. Mais globalement, il n'y aura pas beaucoup de sanctions. Et puis deux, est-ce que le problème, c'est pas celui des trajectoires de carrière pour les femmes qui est handicapante plutôt que celui vraiment du salaire?
Il y a plusieurs sujets. Le temps partiel. Aujourd'hui, le travail à temps partiel, c'est majoritairement des femmes. C'est plus de 75% de femmes qui sont concernées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est les filières. C'est-à-dire, elles vont dans des filières qui aujourd'hui sont moins rémunératrices et qui pourtant sont absolument essentielles et vitales pour la du pays, les filières du soin et du lien notamment, donc c'est un enjeu aussi de mixité. C'est la question de la parentalité. Pourquoi je me suis beaucoup battue sur les congés parentaux, sur la création d'un congé de naissance? Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on devient mère, on est pénalisé dans sa carrière. Quand on devient père, on est valorisé dans sa carrière. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit. Ça, c'est ce que nous disent les chiffres de manière très concrète, avec une baisse de rémunération, des coupures aussi dans la carrière. Et encore une fois, on a beaucoup parlé de la question des retraites, mais les retraites, c'est jamais que le reflet de la carrière que vous avez eu ou non. Donc il n'y a pas de surtransposition, on ne fait pas plus. Par contre, ce qu'on a dit, c'est qu'on ne ferait pas moins que ce qui existait déjà dans le droit français. On avait un index égalité professionnelle. Année après année, ça a permis d'augmenter justement les rémunérations des femmes et de réduire l'écart entre les rémunérations des femmes et les rémunérations des hommes. Et donc, évidemment, on veut continuer sur cette trajectoire.
Aurore Berger, une dernière question. La Tour Eiffel, des femmes mises à l'écart, cachées derrière des piliers ou dans des salles à l'écart lors d'une visite de religieux hindous. Est-ce qu'il faudra des sanctions? Est-ce que l'enquête suffit?
Alors, je pense qu'il faut évidemment des sanctions et je pense surtout que l'argent n'achète pas tout. Et que vouloir privatiser la Tour Eiffel est peut-être possible parce que c'est très lucratif, mais ça ne devrait pas, en effet, acheter la possibilité de choisir celles et ceux qui vous
alors,
accueillent.
Alors, je vous demande pardon, mais semble-t-il, la femmes. Tour Eiffel n'avait même pas été privatisée. C'est-à-dire que c'est une visite privée au sens où ça a été juste avant l'horaire d'ouverture, mais d'après
en fait,
les informations qu'on a hier,
ils ont eu l'accès. Et réservé à conditionner le fait qu'ils ne souhaitaient pas être
accueillis. Si on parle d'argent, en l'occurrence, ils ont investi par ailleurs une vingtaine de millions d'euros pour monter un temple hindou en région parisienne. Dans ce cadre-là, ils ont été accompagnés par une délégation avec y compris la présidente de la région Île-de-France, mais ils n'avaient pas privatisé, ils n'avaient pas payé pour la Tour Eiffel.
Quand bien même, c'est-à-dire que de toute façon l'argent n'achète pas tout et certainement pas le droit d'effacer les femmes. Et dans notre pays, personne n'a le droit d'effacer les femmes de l'espace public. Et c'est une vraie préoccupation qui existe d'ailleurs en France, dans beaucoup trop d'endroits, de se dire que les femmes pourraient être soustraites de l'espace public. Et en l'occurrence, c'est vraisemblablement ce qui s'est passé. C'est ce que des salariés de la Tour Eiffel ont
dénoncé.
Il y a des enquêtes qui vont être mises en place, à la fois des enquêtes internes. Et j'espère qu'il y aura des sanctions exemplaires qui en seront tirées.
Merci Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci à vous. Il est 7h50 sur RMC et c'est l'heure de la proposition de droite, proposition de gauche. Ce matin, c'est la droite avec vous, Charles Consigny. Bonjour Charles.
Bonjour.
Après les résultats de l'étude PISA, vous avez une proposition pour remonter les notes des élèves français.
Oui, je pense qu'il faut faire plus d'études dans l'établissement scolaire le soir pour les élèves en difficulté.
Études obligatoires pour les élèves en difficulté, vous nous le dites dans un instant. N'hésitez pas à réagir au 32-16. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la proposition de Charles Consigny. Mais d'abord, le bonus, Mathieu avec une légende de retour à Paris.
Ouais, Stevie Wonder qui revient 16 ans après son dernier concert dans la capitale. La légende de plus de 60 ans de carrière qui annonce un concert exceptionnel à Bercy, Accor Hotel Arena, le 15 octobre prochain. C'est très bientôt. Un retour pour célébrer les 50 ans de son album Song in the Key of Life. Double album culte où le chanteur a signé certains de ses plus grands tubes dont vous vous souvenez, ceux que vous entendez. On ne sait pas encore si Stevie Wonder jouera l'album anniversaire en entier ou seulement une sélection de titres. Il a 76 ans. Dernière apparition en France, Festival Jazz à Juin. C'était en 2014. Les tarifs n'ont pas encore été communiqués. Il va falloir être rapide. Les préventes ouvrent ce mercredi, ce matin, à 10h tout à l'heure, avant une mise en vente générale vendredi.
RMC. RMC, Apolline Matin.
Proposition de gauche, proposition de droite.
Chaque matin, 7h50, une proposition concrète de droite, de gauche, on alterne. Et c'est aujourd'hui Charles Consigny, la droite. On parlait des résultats catastrophiques des élèves français qui ont été dévoilés par l'étude PISA. Vous avez une proposition pour les élèves en difficulté. Charles, vous voulez leur imposer une heure d'études obligatoire chaque jour.
En fait, moi ce que je regarde, c'est comment font les pays qui sont en haut du classement PISA. Donc les pays asiatiques en particulier. Il y a une donnée importante, au-delà des examens qui sont plus difficiles que chez nous, plus exigeants, et d'un tri très précoce des élèves par filière selon leurs capacités, c'est le recours massif au soutien scolaire privé payant en dehors de l'école. C'est-à-dire que concrètement, les parents de ces petits élèves payent massivement des heures de cours. C'est ce que font aussi les parents d'enfants favorisés, les parents qui ont les moyens de le faire. Donc moi, ce que je dis, c'est tout simple, c'est que si on a des élèves qui décrochent au cours de l'année, qui sont manifestement pas au niveau, moi je suis très frappé de voir, et je parle de ça dès l'école primaire, puisque je vois que des élèves arrivent au collège sans savoir complètement lire, ce qui me paraît hallucinant. Normalement, on sait lire dès le CP à peu près, troisième maternelle, CP. Bon, je propose de faire des heures de cours le soir, des heures d'études le soir dès l'école primaire. C'est interdit en l'occurrence qu'on n'a pas le droit de travailler au-delà de la récitation. Il faut changer ça. Il faut des heures d'études pour les élèves les plus en difficulté à l'école. Et je pense, je vais laisser réagir, je pense qu'on a largement les moyens de le faire. J'ai regardé là aussi les chiffres. Le budget d'éducation nationale, c'est 65 milliards d'euros. On a 1,1 million d'agents à temps plein pour 11 élèves, alors qu'il y a 12 millions d'élèves. Donc ça nous fait un agent pour 11 élèves. Aux États-Unis, par exemple, qui sont plus hauts que nous dans le classement PISA, c'est un agent pour 7 élèves. Donc on peut le faire, faisons-le.
Mais parce alors justement, Charles, quand même, il y a aussi un problème de culture en France. Parce que vous parlez des pays asiatiques, c'est vrai, au Japon par exemple, les professeurs consacrent beaucoup de temps à s'occuper des élèves en dehors des heures de cours. Mais vous prenez un pays comme l'Angleterre par exemple, où il y a des défaillances au niveau de l'éducation nationale qui sont comparables à celles de la France, problèmes budgétaires, enfin tout ce qu'on connaît. En Angleterre, les professeurs mais passent tous un temps fou à rattraper tout ce que les élèves n'arrivent pas à prendre en cours, à remplacer tous les professeurs. En Allemagne, il y a des obligations légales, mais pareil, on sait que les professeurs passent un temps fou en dehors des cours à passer du temps avec les élèves. Pourquoi est-ce qu'en France, les professeurs ne le font pas?
Bah, parce que je veux pas revenir à mes marottes, mais je pense que on a connu ces dernières années en France une espèce de démobilisation générale. C'est-à-dire que tout le monde s'est un peu mis en boule et a commencé à se montrer hostile au travail. J'ai regardé là aussi les chiffres. Sur 2024-2025, vous avez 10%, ce qui est énorme, 10% des heures de cours qui n'ont pas été assurées à cause de l'absentéisme parmi les professeurs et du non-remplacement des profs. Nous répondrons les syndicats.
Moi, je pense en Allemagne, c'est une obligation pour tous les profs de remplacer leurs collègues qui ne sont pas là. Hein. C'est une obligation
légale. Oui, mais
légale.
Moi, j'aimerais qu'on ait déjà l'obligation d'être présent.
Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, Charles, pendant cette heure? On fait quoi? On fait, c'est de l'étude, c'est de la.
En fait, on se rattrape.
C'est de l'aide personnalisée. Et puis, il y a une autre proposition qui est majeure, qui est faite notamment par le Conseil d'analyse économique, c'est de dire, mais il faudrait réduire aussi le nombre d'élèves par classe. Pour le ramener à la moyenne de l'OCDE. Et on pourra pas tout faire. Est-ce que ce serait pas plus efficace que juste
ça va se faire par la démographie, j'ai envie de vous dire.
Voilà.
Attendez quelques années, déjà, vous en aurez moins.
Non, mais tout à fait, exactement. Comme de toute façon, les Français font, si vous voulez, les Français font plus d'enfants, et ceux qui font des enfants s'en occupent plus, à peu près. Donc, ça va vite se régler. Moi, je pense effectivement qu'il faut moins d'élèves par classe, mais avant de faire ça, ça existe déjà. Vous savez, il y a, les fameuses, zone d'éducation prioritaire REP+.
Avec le dédoublement des classes, notamment en CP et en CE1.
Dans lequel il y a ça. Bon, moi-même, c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai connu ça au collège et au lycée. J'étais nul en maths. À un moment donné, j'ai eu une prof de maths qui nous a pris à 2-3 élèves les plus nuls et qui a réussi à faire remonter notre niveau. Donc ça, évidemment que c'est utile. Mais moi, je pense surtout au problème des élèves dont les parents n'ont pas les moyens de leur payer un prof particulier. Si vous avez les moyens, c'est facile. Vous avez quelqu'un qui vient tous les soirs et qui aide votre enfant à progresser. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne pouvez pas payer ça? Bah, votre enfant, il ne rattrape pas son retard. Donc c'est pour ça que je propose ça. Et je pense qu'avec 11 agents
par élève, honnêtement, on a quand même largement la possibilité.
Les moyens humains sans en rajouter.
Je propose de payer les heures supplémentaires pour le faire, bah par oui. ailleurs, pour augmenter
Merci
les salaires des
Charles.
Agents en question.
Charles Consigny, la proposition concrète de droite, de gauche, c'est tous les jours à 7h50. Il est 7h58. À tout de suite pour la météo et le journal. On va revenir juste après le journal sur la hausse des prix du carburant. Faut-il les plafonner? À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h, passé de 1 minute. Très belle journée à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Biko, Bougnoul, Nègre, Kirikou. Vous allez entendre dans ce journal les propos racistes, complotistes, misogynes, aussi tenus par des policiers municipaux à Carcassonne, des propos qui ont fuité dans un enregistrement vidéo. On se demandera dans ce journal si les parents ne sont pas en partie responsables de la baisse du niveau des élèves. C'est un des points qui apparaît dans le dernier classement PISA. Et si Paris peut réussir le triplé cette saison en Ligue des Champions, le PSG qui joue son premier match européen contre Bratislava.
Vous venez de l'entendre sur RMC. La ministre Aurore Berger condamne ce matin les propos inacceptables tenus par des policiers municipaux à Carcassonne.
Oui, elle déplore une libération de la parole raciste et espère des sanctions à l'égard donc de ces policiers municipaux qui se sont enregistrés sans le savoir en déclenchant leur caméra piéton durant une tournée nocturne. C'était l'année dernière, en novembre 2025, dans cette ville de Carcassonne. C'est le journal Midi Libre qui a révélé ces enregistrements. Romain Houg, vous les avez écoutés pour RMC et ce qu'on entend est absolument sidérant.
Oui, il y a par exemple cet extrait. Les quatre policiers sont à bord de leur voiture lorsqu'ils reçoivent un coup de téléphone d'une femme qui pense avoir heurté un animal.
J'espère que c'est pas un gamin ou quelqu'un qu'elle a percuté par contre. Non, c'est peut-être un migrant. Un petit kirikou. Kirikou dans la savane. Il est percuté. Il est venu en France, il est percuté par un véhicule.
Merde alors. Plus tard, l'équipage s'arrête, boire un café, ce qui donne lieu notamment à cette conversation.
Tout à l'heure, on était sur Carnot, du Bico, du Nègre, du Bico.
Ça, c'est la France, c'est
ça. De l'Afghan, beaucoup d'Afghans.
Racisme, misogynie, homophobie, complotisme, voire même putschisme. Pendant ces 5 minutes de vidéo révélées par Midi Libre, les agents enchaînent les propos plus ahurissants les uns que les autres. Ils sont tenus en très grande majorité par un homme, le chef d'équipe, âgé de 50 ans, ancien parachutiste de l'armée, qui collabore régulièrement avec le service d'ordre du Rassemblement National. Il a plusieurs fois escorté Jordan Bardella lors de ses visites dans l'Aude. Ces images, elles sont aux mains de la justice depuis janvier. Le parquet de Carcassonne a ouvert une enquête préliminaire. L'ancienne équipe municipale, elle, a ouvert une enquête administrative. Depuis les élections, la ville a basculé Rassemblement National, mais le nouveau maire, Christophe Barthès, renvoie cette histoire à l'ancienne municipalité. À ce jour, aucune sanction n'a été prise et les fonctionnaires sont toujours en poste.
La nuit a été plus calme à Chambéry, c'est ce que disait un petit peu plus tôt ce matin sur RMC le maire de cette ville, plus calme que la précédente, quand des violences urbaines ont éclaté après l'interception par la police d'un automobiliste blessé par balle, homme qui est mort quelques heures plus tard. Ce n'était pas un tir policier, ça c'est ce qu'assure le procureur donc dans cette ville de Chambéry. La justice va devoir se mettre au numérique. C'est l'annonce que doit faire dans la journée le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui convoque aujourd'hui et pour deux jours d'ailleurs à Paris les procureurs et présidents de tribunaux. Trois mois maintenant après l'affaire Liana, il ne veut plus en fait que des dossiers papier se perdent en chemin, ce qui avait permis aux suspects dans cette affaire de passer justement sous les radars. Maxime Clier-Ruza du service police-justice à RMC. Il y a donc encore trop de papier pour le ministre.
Il y a encore 20 à 30% de papiers dans les tribunaux, déclaré en juin dernier Gérald Darmanin. La première étape de son plan est donc de numériser l'ensemble des plaintes. Objectif que les procédures recensées par les policiers et les gendarmes remontent instantanément aux tribunaux compétents, là où une procédure papier pouvait prendre plusieurs semaines, voire se perdre. Deuxième étape, la mise en place d'un scoring. Autrement dit, l'intelligence artificielle pourra attribuer un score à un dossier, le prioriser par rapport à un autre, sans que l'on sache pour l'heure les critères de cette notation, mais avec les espoir de ne plus passer à côté de criminels en série présumés comme Jérôme Barella dans l'affaire Liana. Parmi les autres pistes déjà annoncées, des assistants boostés à l'IA pour résumer des dossiers ou encore aider à rédiger les procédures.
Il y aura une nouvelle réunion sur les prix des carburants aujourd'hui à Bercy. Les distributeurs sont convoqués au moment où les prix repartent fortement à la hausse dans le sillage du baril de pétrole qui s'approche des 100 dollars. Avec les frappes encore ces dernières heures au Moyen-Orient, Michel-Édouard Leclerc plaide pour un plafonnement des prix. Bon, on verra si Dominique Schellcher, le président des magasins U, partage ce point de vue. Il sera tout à l'heure face à Apolline à 8h30 sur RMC. Il y a un sujet qui fait énormément réagir depuis ce matin sur RMC, c'est la dégringolade du niveau scolaire dans le dernier classement PISA. le niveau des élèves français, les résultats des élèves qui n'ont jamais été aussi mauvais. Moins 18 points en compréhension de l'écrit, moins 16 points en maths. Ça baisse aussi en sciences. Il y a de moins en moins de bons élèves. Et alors Bérangère Bocquillon, vous êtes la chef du service société RMC. La France est un des pays où l'implication des parents recule le plus ces dernières années.
Oui, à peine un parent sur deux s'implique désormais, c'est-à-dire demande régulièrement le soir à son enfant ce qu'il a fait à l'école, s'il a rencontré des problèmes ou ce qu'il veut faire comme étude. La seule question que les parents posent encore beaucoup concerne les notes, mais il faudrait plutôt s'intéresser, selon le ministre de l'Éducation, à ce qu'ils apprennent à l'école et à leurs devoirs. Sébastien Vieille est professeur d'anglais et secrétaire national du syndicat SNALC.
On a de plus en plus d'élèves qui vont arriver le matin sans avoir fait leurs devoirs. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Donc, derrière, il y a un suivi qui ne se fait peut-être plus. Il m'est arrivé, quand j'étais professeur principal en classe de terminale, dans les réunions qu'on fait en début d'année, où on réunit tous les parents d'une classe, il m'est arrivé deux années de suite de me retrouver avec un seul parent d'élève sur une classe de 30 élèves.
Et ce désinvestissement des parents concerne tout le monde, hein, les milieux favorisés comme les moins favorisés. Pourtant, plus les parents s'impliquent, plus les enfants réussissent à l'école. Mais pour Mustapha Ozelik, vice-président de la Fédération de parents d'élèves FCPE, c'est injuste de pointer du doigt les parents.
Il y a également une chose, c'est que l'école doit créer les conditions d'accessibilité, de dialogue, de communication, pas uniquement parce qu'on a mis en place Pronote ou on communique avec les parents via des outils numériques. On doit revenir sur la relation humaine entre les familles, les parents et l'école.
Le ministre de l'Éducation a annoncé hier que dès le retour des vacances de la Toussaint, tous les parents recevront des objectifs d'apprentissage pour leurs enfants. Et avant chaque vacances scolaires, des listes de lecture seront mises à disposition des familles.
Jamais 203. Ça, c'est pas des maths, c'est du football. Et c'est Paris qui vise, vous le savez, le triplé cette saison en Ligue des Champions. Les Parisiens qui ont remporté les deux dernières éditions, qui font leur rentrée donc dans la compétition ce soir à 21h. On vivra ça sur RMC. Ce sera contre Bratislava avec l'idée de remporter encore une fois cette Ligue des Champions, Valentin Jamain.
Oui, devant le Parc des Princes, Agnès a le sourire. Casquette sur la tête, elle pointe du doigt sa tunique bleue et rouge.
Le maillot, oui, on a de la place de mettre 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. On ne s'arrête pas maintenant qu'on l'a. On continue. Tout le monde veut battre Paris. Mais Paris, il est imbattable.
Malgré le début de saison difficile, la confiance est là. Alors après le back-to-back, la supportrice en veut plus.
Alors je ne sais pas comment on dit le tri-tout-tri.
On dit le three-peat, expression américaine pour dire triplé dans le sport, auquel croit aussi Clément, alors que 5 recrues sont arrivées.
Ouais, je pense que c'est faisable. On a eu un renouvellement d'effectifs cette année. À part le Bayern, je vois pas d'équipe vraiment aussi compétitive que le PSG.
La victoire, il ne s'en lasse pas.
La première, c'était incroyable. Après, ça a toujours les matchs de Ligue des Champions une grande saveur. Ça reste quand même ultra important.
Au 21e siècle, seul le Real Madrid a gagné 3 Ligues des Champions de suite et le capitaine Marquinhos assure que son équipe fera tout pour faire pareil.
C'est une question d'ambition, une question de motivation, une question de philosophie et maintenir notre niveau d'exigence pour montrer que nous, on peut arriver encore une fois loin dans cette compétition.
Face à d'autres prétendants ambitieux comme Arsenal, Barcelone, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid.
Et c'est mal parti pour Lille, battu 3-2 hier soir par le Betis Séville. C'est un événement mondial, vous le savez à chaque fois. Le géant Apple va présenter en fin de journée ses nouveaux iPhones et certainement son tout premier iPhone pliable. 7 ans quand même après son concurrent Samsung. Et alors les passionnés de jeux vidéo sont ravis. Il y a Nintendo, vous reconnaissez la musique, qui vient de présenter les images du nouveau jeu Zelda, un remake de Ocarina of Time, un des plus vendus de l'histoire, avec des graphismes améliorés évidemment par rapport à la version sortie en 98 sur Nintendo 64. Le jeu sortira le 5 novembre, et là, petit coup d'œil sur le calendrier, le 5 novembre, ça tombe 2 semaines avant la sortie du nouveau GTA. Il y en a qu'on va pas beaucoup voir cet hiver. Hein.
On sent qu'Emmanuel Le Chypre est prêt là. Il est au taquet. C'était le journal de...
Ça se regarde comme des films.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h09 sur RMC. Et ces prix que vous voyez partout désormais autour de vous. 2,12€ le litre d'essence. 2,29€ le litre de gasoil. Où est-ce que ça va s'arrêter? Bonjour Aurélie Trouvé.
Bonjour.
Vous êtes députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il faut bloquer les prix du carburant. Voilà ce que vous demandez déjà depuis des mois désormais. Bloquer les prix du carburant et taxer les super profits. Vous allez peut-être trouver un nouvel allié, Michel-Édouard Leclerc hier, qui dit qu'il faudra plafonner les prix, que c'est inéluctable. On vous interroge dans un instant, 8h10.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h13, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Le baril de pétrole a dépassé les 100 dollars cette nuit après de nouvelles tensions au Moyen-Orient et conséquence, le prix des carburants n'est pas prêt de redescendre. 2,12€ le litre d'essence, 2,29€ le gasoil. Aurélie Trouvé, vous êtes toujours avec nous, vous êtes députée LFI de Seine-Saint-Denis. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il veut bloquer les prix des carburants à 1,70€. Comment on ferait concrètement? Qui rognerait sur sa marge? L'État, les raffineurs, les distributeurs?
Ben, très clairement, ceux qui vont baisser leur marge, ce sont les pétroliers, c'est Total, hein, puisque c'est eux qui profitent de la guerre, et je le dis bien, ce sont des profiteurs de guerre qui font en fait un maximum de surprofit depuis le début de la guerre, tout simplement parce que Total est un pétrolier qui extrait le pétrole. Et son coût de production n'a pas augmenté depuis un an, alors qu'il le revend beaucoup plus cher.
Aurélie, sauf que le problème, c'est que Total, avec ses prix bloqués déjà, a fait plus pour les Français que l'État, déjà, sur les aides au carburant.
Alors ça, c'est une vaste blague, d'ailleurs une blague dramatique, parce que vous avez vu qu'il a plafonné à des prix ahurissants, quoi. Le gazole, vous l'avez vu, est à 2,30€, il plafonne, je crois, à 2,25€ ou 2,29€, bon... Donc il plafonne un prix en réalité très haut, beaucoup trop haut. Le samplon à 2€, nous nous demandons le samplon, nous voulons plafonner et nous le plafonnerons si nous gouvernons à 1,70€. Et je le dis, il suffit juste d'un décret en fait pour le faire. Et d'ailleurs, il y a d'autres pays, plein d'autres pays dans le monde qui cette année ont plafonné les prix des carburants devant
le scandale des prix des carburants. Alors ils l'ont pas fait longtemps.
Certes, mais vous avez la Pologne, la Hongrie, la Croatie, le Mexique, la Thaïlande, l'Indonésie. Il y en a encore hein, qui le font. Mmh. Ou alors plafonnement des marges, République tchèque, Autriche. Et qu'a fait la France? Rien. Il y a plein de pays aussi qui ont demandé une taxe sur les super-profits totales, de l'Allemagne à l'Espagne, etc. Qu'a demandé la France? Rien. Et on a un gouvernement qui fait du bricolage.
J'allais même dire pire, dans un sens, Aurélie Trouvé, c'est qu'il n'y a pas eu effectivement une demande de taxation cette année, mais c'est même le patron de Total qui a pris les devants en menaçant l'État, en disant s'il y a une taxation des super-profits, alors plus jamais vous ne pourrez compter sur moi pour plafonner les prix.
Mais c'est justement insupportable, la soumission de ce gouvernement et de Monsieur Macron, de ses premiers ministres. Je rappelle qu'il y a eu Gabriel Attal et ou Édouard Philippe et aujourd'hui Sébastien Lecornu. Les premiers ministres sont soumis totalement à Total. Et Total, c'est du chantage à la pénurie qui est insupportable.
Votre mesure, le grand gagnant de votre mesure, ce serait Total. Pour une raison simple, c'est que Total maîtrise tout, depuis le puits de pétrole jusqu'à la pompe à essence. Si vous bloquez les prix et que tous les autres distributeurs qui, eux, achètent leurs produits raffinés sur un marché mondial où ce sera très cher, vous les mettez tous sur la paille. Vous les mettez tous sur la paille. Donc, il ne restera plus une station-service à part les stations Total.
Aurélie,
Vous êtes en train de reprendre, excusez-moi, hein, mais exactement les mensonges de Total, en réalité, et ce que M. Pouyanné raconte et son chantage. Mais en réalité, d'abord, le blocage des prix n'empêchera aucunement Total de produire. Il y aura juste un peu moins de dividendes indécents des actionnaires. Je rappelle quand même qu'il y a eu 12 milliards de profits de Total sur les 6 premiers mois, ce qui leur a permis d'augmenter énormément les dividendes des actionnaires. Vous savez que les actionnaires, par ailleurs, c'est 40%, c'est des fonds américains, hein, d'accord ? Total a plusieurs mois de stock privé, et il ose faire du chantage. Et par ailleurs, son chantage à la délocalisation, j'y crois absolument pas, parce que d'abord, il faudrait plusieurs semaines, plusieurs mois avant de transformer sa chaîne de valeur, en réalité.
Aurélie Trouvé, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas juste baisser les taxes? Ça, c'est la proposition du Rassemblement National. Baisser les taxes, remettre une sorte de TIPP flottante qu'on pourrait faire baisser le temps que ça ne redescende.
Eh ben ça reviendrait à faire payer extrêmement cher le contribuable. D'accord, sachant que les taux d'intérêt de la dette explosent, parce que évidemment, ça ferait des milliards d'euros en moins pour les caisses de l'État, et évidemment, ça devrait être compensé par le contribuable, sans servir à rien, et même en remplissant encore plus les poches de Total, parce que
sinon, il y a une autre idée de taxe.
Total va diminuer ses prix. Non, mais juste, si vous diminuez la TVA, rien ne dit que Total va baisser ses prix. Donc, Total continuera, au contraire, à faire ses profits. Donc, vous voyez que ça ne va pas. Ça sera juste un chèque cadeau des contribuables aux grands actionnaires de Total. Philippe, nous, on est contre ça.
Philippe a une proposition très concrète. Bonjour, Philippe. Vous nous appelez au 3216 depuis la Haute-Garonne. Vous êtes à Tournefeuille et vous êtes fonctionnaire. Philippe, vous dites qu'il faut peut-être partager les taxes, y compris avec les voitures électriques?
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Je me demande pourquoi...
les déplacements qui sont réalisés en voiture électrique ne sont pas taxés au même titre que les personnes qui se déplacent avec des voitures thermiques.
Ça permettrait en quelque sorte de partager, de pouvoir baisser les taxes sur le thermique si on augmentait celle de l'électrique. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Aurélie Trouet?
Je dirais là, au contraire, il faut pousser vers, il faut aider les gens à passer à l'électrique. Malheureusement, le gouvernement a sabré.
Mais aujourd'hui, il y a une grande injustice entre ceux qui n'avaient pas les moyens de passer à la voiture électrique qui sont restés avec leur vieille voiture thermique et qui payent beaucoup plus cher que les autres.
Là où je suis d'accord, c'est qu'il y a une injustice. C'est-à-dire que le gouvernement ne donne pas les moyens aux gens de passer à l'électrique. Il aurait dû y avoir beaucoup plus d'aides pour passer à l'électrique et le gouvernement en a sabré plein. Et je vais vous dire, aujourd'hui, l'urgence, c'est de sortir de cette société du pétrole. Vous savez que notre énergie, elle dépend encore à 60% des hydrocarbures. Macron est au pouvoir depuis 9 ans. Il a fait quoi pour ça? Contre ça? Rien du tout. En fait, il a fait en sorte que nous soyons encore hyper dépendant du pétrole importé. Et c'est une honte que le gouvernement n'ait rien fait, rien planifié, rien anticipé, gère à la petite semaine catastrophe sur catastrophe. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous le dis, que, et je vous l'annonce, la France Insoumise a obtenu une mission parlementaire dont je serai rapporteur sur le scandale des prix des carburants et ce que nous devons absolument faire.
Et on sait déjà tout, il n'y a pas de marge nulle part.
Vous nous le direz et vous reviendrez nous annoncer les conclusions de votre rapport. Merci beaucoup Aurélie Trouet d'avoir répondu à nos questions. Députée LFI de Seine-Saint-Denis. Et merci à Philippe pour sa proposition. Il est 8h20 sur RMC, c'est l'heure d'Arnaud de Manche.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche. Et bonjour.
Bonjour
Pauline, bonjour Manu, bonjour Mathieu. Salut tous les amis, est-ce que quelqu'un veut boire un café? Alors, on va parler d'actu ce matin, un petit point météo d'abord, il va faire un peu plus froid aujourd'hui, on attend des températures inférieures à 20 degrés sur la moitié du pays, et chez les Le Chypre, ça y est, c'est le top départ. On a donc ressorti le service à fondu et l'appareil à raclette. Manu a fait ses adieux à son barbecue et à sa plancha.
Salut les amis. On se revoit l'été prochain, vous allez me manquer.
Mais papa, ne pleure pas.
Oh fiston, tu sais, je suis un grand sentimental. Rappelle-toi cette côte de bœuf qu'on a fait en juillet.
Bon, puis nous, il va falloir qu'on trouve une place dans la cave pour ranger les 4 blocs clim et les 12 ventilateurs qu'on a acheté une fortune au mois de juin. Allez, la politique, tant qu'on parle d'amateurs de barbecue, Fabien Roussel s'est déclaré candidat à la présidentielle. Eh ben, je vais vous dire, tant mieux. Voilà, ouf. Moi, j'avais un pote de gauche qui me disait, ça manque de candidats, on retrouve pas toutes les nuances. Eh ben, ça vient. Ah, voilà. Fabien Roussel a déclaré sa candidature dimanche sur TF1. C'est une coutume.
Oui, il habite désormais, vous avez raison.
Après Glucksmann et Olivier Faure, le 20h de TF1, tous les dimanches, un nouveau candidat de gauche. Ils vont pas réussir à tenir toute la saison, hein. Mi-février, ils vont être tellement en galère, ils vont aller chercher Edith Cresson dans son EHPAD. Madame Cresson, est-ce que vous vous présentez à la primaire du PS?
Comment? Où est-ce qu'il est, monsieur Mourouzi?
Il est mort, je suis monsieur Boulot.
Vous avez du boulot? Eh ben, c'est bien d'avoir du travail, jeune homme. Mais qui êtes-vous?
Je suis monsieur Boulot.
C'est bien d'avoir du travail, jeune homme. Mais qui êtes-vous?
Je suis monsieur Boulot.
C'est bien du boulot. Les gens en ont plus du boulot. À cause des socialistes. Mitran.
Ok, bon, merci Madame Cresson. Et dimanche prochain, je recevrai le fémur de Lionel Jospin.
Oh non,
il fouille tous les tiroirs.
Non, mais... C'est du jour, le classement PISA.
Oui, le classement PISA, énorme sujet. Alors lisons-le déjà, le classement PISA. C'est scandaleux. Numéro 1, la 4 fromages. Numéro 2, la Regina. Numéro 3, la Alors je vois Mathieu Béliard
s'agiter sur sa chaise.
Non, c'est pas vrai. Non. Top 1 des pizzas, c'est la déconstruction italienne de tomates concassées sur son lit de mozzarella de lait de musaraigne et pâte au levain antique. Bon, plus sérieusement, le classement PISA, c'est quoi en vrai? C'est le classement mondial des niveaux et des systèmes éducatifs. C'est un peu l'Eurovision des écoles. Et comme à l'Eurovision, la France est tout en bas. Voilà les enfants, vous m'entendez? Vous êtes nuls. Vous êtes les pires enfants du monde. On capte là, mes nièces, elles m'entendent. Alba, Valentine, vous êtes les pires nièces de tout le continent. Les Roumaines sont mieux, les Chinoises sont mieux, tout est mieux. Emmanuel Macron, il doit être fou. Il doit être là, putain, déjà que vous faites pas d'enfants, et en plus, quand vous en faites, ils sont teubés. Il faut encore tout faire soi-même dans ce pays. Ben, je vais m'y coller alors. Allez Brigitte, viens, on va... Ah non, merde, on peut pas.
Oh non.
Après, on le savait hein, que nos écoles étaient pas dingues. Quand tu penses que le top du top des écoles d'économie, chez nous par exemple, elles ont sorti comme number one, comme élite, Bruno Le Maire. Dans notre système, le premier de la classe, celui qui a le ministère, c'est monsieur 3000 milliards. Ben voilà, c'est te dire si le niveau global est pas fameux.
Oui, un décès, un autre, j'allais dire, vous a marqué un autre.
Oui, un décès, voilà, ben oui, c'est l'heure de l'hommage. Une grosse créature orange qui aimait se promener sur une île pleine d'enfants,
des habités.
Ah ouais, non, c'est pas Donald Trump, effectivement. Voilà. C'est Yves Brunier, le créateur et l'interprète de Casimir. C'est un héros des enfants des années 70, Casimir, c'est comme Nounours de Bonne Nuit les Petits. Pareil, Nounours, c'était un monsieur dedans.
Pom, 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 je suis bien content.
Bonjour, Nounours.
Ne m'appelle pas Nounours. Appelle-moi simplement Jack.
Oh non.
Ou Monsieur Lang. Tu sais que je suis ton ministre de l'éducation. Les enfants, vous voulez que je retire mon costume? Tenez.
Ah, un monstre! Frankenstein!
Mais enfin, vous plaisantez, je sors de la clinique esthétique des Champs-Élysées et du salon de coiffure. Je suis votre ami. Je suis un peu Casimir.
Ouais, t'es un peu quasi-mort, surtout.
Les enfants sont méchants. Ils sont nuls à l'école et ils sont méchants. Casimir, c'est un programme très populaire. C'est très France d'avant, Casimir. D'ailleurs, en Allemagne, l'AFD veut racheter la licence et lancer une adaptation locale, Nazimir.
Oh non. Je suis Nazimir, votre ami de la FD, les dinosaures nazis. Aujourd'hui, on va agrandir l'île des enfants en rajoutant la Pologne et l'Alsace et la Lorraine. Voici venus les tanks, les rires et les chants.
Ça promet comme Allez, étudiez bien.
Merci
les enfants. À demain.
Il est 8h25 dans un instant. Le face-à-face. Mon invité, c'est Dominique Schellcher, le patron des magasins U. Et on va parler carburant, notamment. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schellcher.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le patron de Coopérative U, les magasins U. De très nombreuses questions à vous poser, mais d'abord sur le carburant, évidemment. À l'aube ce matin, les Iraniens disent avoir frappé des bateaux américains. Les États-Unis avaient frappé plus tôt dans la nuit 5 pétroliers iraniens. Plus de 100 dollars le baril cette nuit, 2,12 € le litre d'essence, 2,29 € pour le gasoil, ça c'est la moyenne sur le territoire français, jusqu'où ça va monter?
Personne ne peut le dire, mais tant qu'il y aura des perturbations comme cette nuit encore, des bombardements, et qu'on n'aura pas retrouvé une chaîne logistique, parce qu'en fait le carburant c'est une chaîne logistique mondiale qui est complexe, qui est lourde. Et cette chaîne elle est perturbée comment? Il y a des stations de raffinage qui ont été bombardées, donc il y a des capacités de raffinage qui sont moins fortes qu'avant. Il y a des routes maritimes qui sont perturbées parce que les bateaux sont attaqués, donc par exemple l'assurance de ces bateaux coûte plus cher parfois, les pétroliers prennent des bateaux plus petits, donc toute la route est plus compliquée, donc tout est un peu plus cher. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de la sérénité, la paix en fait, et de la tranquillité pour de la circulation normale, on aura des prix tendus.
Est-ce qu'il faut se préparer à ce que votre confrère Michel-Édouard Leclerc parle de 2,40 € le litre? Il dit ça peut arriver. Est-ce que vous dites oui, on en est là?
Je ne fais aucun pronostic, mais je constate seulement que c'est extrêmement tendu. Il n'y a pas du tout de sujet de pénurie. Par contre, faut rappeler que sur le gasoil, on est complètement dépendant des importations, complètement en France. On n'a pas, voilà, on importe tout. On ne raffine plus, on importe tout. Et quand vous importez dans la situation que je viens de décrire, avec des capacités de raffinage réduites, avec des bateaux plus petits qui coûtent plus cher, eh ben on est très dépendant.
Vous dites il n'y a aucun problème de pénurie. Il n'y a pas de pénurie en France.
Il n'y a pas de pénurie. C'est plus difficile de le trouver, de l'acheminer. Mais on continue à en trouver et le flux est régulier, mais il est plus cher, malheureusement.
Mais à quel prix, évidemment? Et puis, cette question de la spéculation, malgré tout. Vous dites, oui, la chaîne concrète, et évidemment, on l'imagine et on le voit bien, et à nouveau, avec les frappes qui ont eu lieu cette nuit, tout est plus compliqué. Mais est-ce que ne s'ajoute pas à cela une question de spéculation? Est-ce que certains, LFI parle de Total comme de profiteurs de guerre, est-ce qu'il y a eu une forme de spéculation, de jeu là-dessus?
Bah, c'est maintenant documenté. Certains de vos confrères ont fait des enquêtes très fouillées. Au niveau du raffinage, les marges ont fortement augmenté, x3, x4. Donc, il y a...
Les marges, c'est pas seulement les coûts, c'est les marges.
Tout à fait. Les coûts ont augmenté, on vient de le décrire.
Ça, vous nous disiez, mais là, les marges, ça veut dire qu'ils en ont profité en quelque sorte.
Profité davantage que pendant la période précédente. Et si je pense qu'il y a un maillon qui peut peut-être aujourd'hui faire un effort, mais il est à l'étranger, ce maillon, essentiellement. Donc, il n'est pas français. Et donc là, c'est difficile de demander, revoyez vos marges de raffinage. Mais ce maillon-là, clairement, c'est x3, x4. Donc,
ce maillon-là, c'est le raffinage.
Pour vous, c'est le raffinage sur lequel
il faut porter les efforts.
Voilà, l'assurance, elle coûte plus cher, c'est normal. Les gens veulent protéger leur outil de travail. Les routes sont plus longues, tu ne pourras rien y faire. Mais peut-être sur le raffinage, c'est possible.
Quand vous dites ça, est-ce que ça veut dire que vous donnez aussi un signal au gouvernement qui... a décidé à nouveau de convoquer les distributeurs à Bercy. Depuis le début de ces hausses du carburant, depuis le début de la guerre en Iran, ils ont tendance à vous faire porter le chapeau. Ils ont eu au début ce réflexe de dire c'est votre faute, vous les distributeurs. Vous n'avez cessé de dire non, on a baissé nos marges. D'abord, est-ce que vos marges aujourd'hui sont extrêmement réduites sur l'essence? Et deux, qu'est-ce que vous allez leur dire sur les marges?
On en a déjà parlé ici à Pauline de Malherbe.
Ça n'a pas changé?
À plusieurs reprises et ça n'a pas changé. C'est un produit d'appel, il est très bataillé. Les gens, avec ces prix d'aujourd'hui, regardent au quotidien leur station et vont à la moins chère. Si vous n'êtes pas dans les prix les moins chers, les clients fuient et ce n'est pas l'intérêt du commerçant. Donc nos marges sont plus réduites que jamais au quotidien. Au début de la crise, c'était au printemps, effectivement, on était tous distributeurs montrés du doigt en disant « Vous êtes un des maillons qui profite ». Ouf, après enquête de Bercy, puisqu'il y a eu un rapport dont vous avez parlé, porte-parole du gouvernement, Madame Maud Bréjon, a dit « On a étudié le sujet, il n'y a pas de marge abusive dans la grande distribution ». C'est toujours le cas actuellement. Et je dis « Heureusement qu'elle l'a dit », parce que c'est la vérité. Nous, on le disait.
Vous ne vouliez pas être les boucs émissaires?
Mais non, mais on l'est à chaque fois, à chaque crise du carburant, tout de suite. Le vendeur final est montré du doigt. Nous ne sommes qu'acheteurs et revendeurs. Notre marge est minime parce qu'on n'a pas le choix.
Mais alors pourquoi Bercy vous convoque à nouveau? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore vous demander?
Mais pour suivre la situation.
Ou alors c'est peut-être pour s'agiter et montrer qu'on s'agite?
Non, mais pour suivre la situation, il y a énormément de choses à dire. Où en est l'approvisionnement? Quelles sont les pistes d'amélioration? Voilà, il y a toujours.
Comment est-ce que l'État peut vous aider?
Alors. Là, c'est extrêmement difficile. Je pense que c'est pas nous qu'il faut aider actuellement, c'est les Français qui sont en grande difficulté par rapport à ce prix du carburant. La situation est très tendue pour énormément de Français et c'est ces Français-là qu'il faut aider. C'est pas
ça veut
nous.
Dire qu'il faut prolonger sans hésitation. On a senti une hésitation la semaine dernière. Ils ont pris le temps avant de vraiment confirmer que les aides allaient être reconduites. Il ne faut pas d'hésitation. Il faut dire on continue à les aider quoi jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'essence ne redescende.
Mais là, ça remonte à un niveau vraiment très fort. C'est des niveaux historiques. Là, on frôle le record sur le gasoil et on est au record sur l'essence. On est au record. Donc, l'impact au quotidien pour tous les Français, notamment dans nos campagnes, qui amènent les enfants à l'école, qui vont faire les courses, qui vont au sport, au travail avec la voiture, mais c'est considérable. J'entendais un chiffre ce matin, 5 millions de Français passent un salaire complet par an sur le carburant. C'est énorme.
C'est énorme. Est-ce qu'il faut plafonner les prix?
Plafonner les prix, moi je pense que d'abord faut aller au bout des aides, peut-être les améliorer et accompagner les Français qui en ont le plus besoin. Et là, Dieu sait que beaucoup en auront besoin. Plafonner les prix, les caisses étant vides actuellement, ça coûterait encore très très cher. Et ça, c'est quelque chose que moi je peux pas préconiser aujourd'hui.
Vous avez entendu votre confrère Michel-Edouard Leclerc qui dit le plafonnement sera inéluctable. Du côté de LFI, on veut plafonner le prix et notamment le prix de l'essence à 1,70€.
On Ça, je pense vraiment que le gouvernement va continuer sa politique d'aide ciblée. Et après, le plafonnement, encore une fois, les caisses de l'État sont vides. Peut-on encore aggraver le déficit de manière massive en touchant tout le monde? Vous voyez, le sujet, quand vous faites ça...
On va en venir à la question des salaires, parce que pour vous, tout est lié, et vous dites que c'est sur les salaires à la fin que l'on fait peser le fait de ne pas avoir fait d'économie ailleurs. Dominique Schellcher, est-ce que Total vous fait une concurrence déloyale?
C'est une forme de concurrence déloyale, je l'ai déjà dit. Ils maîtrisent toute la chaîne, de l'extraction au raffinage à la vente. Donc, ils maîtrisent leur prix, ce que nous ne pouvons pas faire. Et en plafonnant, ça nous fait une concurrence déloyale. Je vous donne un chiffre ce matin. Depuis le début de l'année, chez Coopérative U, on fait 7% de volume de carburant en moins par rapport à l'année dernière.
Vous avez baissé de 7% vos ventes de carburant.
C'est inédit, c'est jamais vu. Là-dedans, il y a plusieurs choses. Il y a cette concurrence déloyale, voilà. Il y a le changement de comportement des Français qui s'adapte, moins de déplacements, des départs en vacances moins loin cet été. On va une fois de moins chez la belle-mère le dimanche. Mais clairement, ils le disent comme ça. Et puis, voilà, c'est ces éléments-là.
7% de moins, c'est considérable.
C'est considérable, c'est du jamais vu. Et donc, en fait, l'impact est fort et le changement de comportement est profond en ce moment.
C'est un changement de comportement du consommateur. Nous entrons dans un monde de rareté. Voilà l'expression que vous avez prononcée il y a quelques jours. Ça rappelle aussi la phrase d'Emmanuel Macron au moment de la guerre en Ukraine, qui disait c'est la fin de l'abondance également, une forme de fin de mondialisation où on pouvait tout trouver partout, tout le temps. Dominique Schellcher, quand vous dites il y a 7% de moins sur le carburant, est-ce qu'il y a aussi une baisse de la consommation sur le reste, une baisse du volume des achats sur le reste des produits?
Le moral n'est pas très fort en cette rentrée. Moi, je trouve les Français extrêmement fatigués après toutes les canicules. Les gens ne sont pas reposés, ils ne sont pas sereins par rapport à la situation économique et ils sont préoccupés par la suite, la campagne électorale que vous commentez tous les jours et surtout à quoi vais-je être mangé, notamment en termes de fiscalité. Donc tout ça les tend et donc ils arbitrent, ils sont prudents. Mais je rappelle un chiffre de base d'abord. Un tiers des Français sont à découvert à la fin du mois. Un tiers des Français. C'est énorme. Vous rajoutez à cela les gens qui sont à l'euro près. La proportion est énorme. Et quand les prix du carburant atteignent des sommets comme actuellement, c'est très difficile pour beaucoup, beaucoup de Français. Et je ne sais pas si on en prend exactement toute la mesure.
Ça se manifeste comment? Est-ce qu'il y a moins d'achats à la caisse? Est-ce que le caddie est moins grand?
Le caddie se concentre sur l'alimentaire. Tout le non-alimentaire est très, très arbitré. Très arbitré. On se concentre sur l'essentiel, c'est se nourrir et quand même bien manger, etc. Voilà l'essentiel. Et ça dure depuis des mois. Et ce qui était au départ, je pense, une adaptation, devient un changement en profondeur. Vous savez, quand vous avez abandonné, pendant le début de la guerre en Ukraine, des grandes marques parce que la marque distributeur était moins chère, maintenant vous avez pris l'habitude de prendre...
Et vous ne retournez pas forcément vers la marque que vous avez quittée. Dominique Schellcher, il y a un tiraillement aujourd'hui entre la question du pouvoir d'achat et vous vous êtes fait tous les chantres de la lutte contre l'inflation, de la baisse des prix et notamment sur l'alimentaire. Quand je dis vous tous, c'est vous, Michel-Édouard Leclerc, le patron des mousquetaires. Et à l'inverse, vous avez les agriculteurs qui aujourd'hui disent ça suffit, il faut accepter une forme d'inflation sur l'alimentaire. On ne peut pas continuer à payer ce que l'on mange si peu cher. On ne peut pas continuer à faire de l'alimentaire la variable d'ajustement parce que ça se fait au mépris de l'agriculteur et que l'agriculture va mourir. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Les agriculteurs doivent vivre dignement de leur métier, bien sûr. Je vous donne un exemple de ce qu'on a décidé cette semaine. Il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois, on avait signé des contrats avec des producteurs de tomates pour une opération de tomates grappes à prix coûtant cette semaine. D'accord? C'était convenu à un certain prix il y a plusieurs semaines, avant un peu les canicules et la baisse de rendement à la production. Quelques jours, on a reconsidéré cette opération. Les contrats étaient signés, ça voulait dire quoi? Que les producteurs étaient contraints de nous livrer. Mais s'ils nous avaient livré au prix signé il y a deux mois, ils auraient perdu de l'argent. On a dit non, on annule l'opération dans tous nos magasins.
Vous avez rompu le contrat pour pouvoir les payer davantage.
Pour pouvoir les payer davantage, et on ne fait pas l'opération. Et dans tous nos magasins, il y a une affiche qui dit « On s'excuse, on n'a pas la tomate gras prévue, mais on paye au juste prix l'agriculteur ». C'est ce type de raisonnement qu'il faut avoir, et on est engagé là-dedans.
Est-ce qu'il faut carrément aller plus loin, c'est-à-dire se dire désormais, je recevais le patron de la FNSEA la semaine dernière, qui disait « Quand une brique de lait est vendue moins de 1 euro, ça veut dire que c'est pas possible. Ça veut dire que techniquement, il y a un problème quelque part. Ça veut dire que l'agriculteur, eh bien, au départ du maillon de la chaîne, il n'est pas payé à sa juste valeur.
Mais le lait...
Est-ce qu'il faut s'engager à ce qu'il n'y ait plus jamais de briques de lait, enfin le temps que ça redescende, plus de briques de lait à moins de 1 euro dans vos magasins?
L'essentiel de nos ventes chez U, je vous le dis, j'ai vérifié parce que je pensais que vous me poseriez la question.
Le lait, c'est essentiel, c'est vraiment c'est la base.
L'essentiel de nos ventes se situe au minimum à 1 euro, 99 centimes, 1 euro le litre. Notamment toute la marque U qui fait l'objet, vous savez, de ce qu'on appelle les contrats tripartites où justement il y a nous, une coopérative laitière et un embouteilleur. Et là, on est tous gagnants, on est tous d'accord, c'est 1 euro. Il y a une exception, il y a un lait premier, ce qu'on appelle, vous savez, le premier prix pour certains clients. C'est pas du tout le plus gros de nos ventes, mais c'est une offre qui existe parce qu'elle est nécessaire pour certains clients.
Et là, il est combien ?
Et là, on est aux alentours de 85, 89 centimes.
Qui rogne ? Est-ce que c'est l'agriculteur qui rogne ou est-ce que c'est vous qui rognez ?
C'est aussi un contrat avec certains producteurs, on est d'accord aussi. Mais peut-être ce prix-là qu'il faudra à terme encore revoir. Il n'a cessé d'augmenter ces dernières années. C'est plus le plus gros des ventes. Et je pense que sur le lait, beaucoup de gens ont compris qu'il fallait payer un juste prix.
Dominique Schellcher, faut-il accepter d'augmenter la TVA, donc in fine le prix d'un certain nombre de produits, pour pouvoir augmenter les salaires? C'est comme ça que vous le posez. Cette question, elle se pose d'ailleurs depuis le début de cette campagne présidentielle. Un vrai débat sur une TVA dite sociale, c'est-à-dire préférer augmenter la TVA mais pouvoir baisser les charges sur les salaires.
Pour vous répondre, je préfère partir du tout haut. Quel est pour moi, la mère de toutes les batailles dans cette campagne? C'est redonner du pouvoir d'achat aux gens, redonner du salaire aux gens, augmenter les salaires. L'employeur aujourd'hui est étouffé. Le salaire est dans un étau. Je rappelle ce chiffre, il y a 50 ans, les gens touchaient 70% de leur super brut, donc toute charge comprise. Aujourd'hui, c'est encore 52%. On a trop fait porter la protection sociale en général sur le salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les travailleurs aujourd'hui, essentiellement les travailleurs, qui prennent en charge le coût de la protection sociale. Il faut diversifier cette couverture-là pour libérer le travail, permettre aux employeurs d'augmenter les salaires et redonner de l'air.
Vous redonnez régulièrement ce chiffre. Vous dites, si moi je veux augmenter l'un de mes collaborateurs pour qu'il puisse disposer réellement de 100 euros supplémentaires à la fin du mois, alors l'entreprise doit supporter une augmentation du coût du travail d'environ 483 euros. C'est-à-dire 483 euros pour vous, pour qu'à la fin il puisse avoir 100 euros dans sa poche.
Exactement. Je fais une précision quand même, parce que certains m'ont fait quelques commentaires là-dessus. Là, c'est pour un salarié autour du SMIC célibataire qui touche aussi la prime d'activité. Si vous augmentez un salarié aujourd'hui de 100 euros au niveau du SMIC, il perd sa prime d'activité. Mais là, le salarié va pas être d'accord. Donc, pour compenser l'ensemble de son revenu et qu'il ait vraiment 100 euros de plus à la fin, c'est effectivement 483 euros, tout compris.
Donc, augmenter la TVA, quitte à ce que les prix augmente dans les rayons, parce qu'aujourd'hui, de 20%, elle passerait à 24%.
Oui, mais Apolline de Malherbe, il n'y a pas que augmenter la TVA. La première chose qu'il faut dire, faut aussi peut-être reconsidérer le volume des dépenses. Est-ce que déjà, on peut réduire cette somme avant de la transférer? Première chose. Deuxième chose, on ne toucherait pas à la TVA des produits de première nécessité, la TVA la plus basse. Et après, moi, la seule solution qu'on voit, c'est effectivement un transfert d'une partie de ces charges sur la TVA la plus élevée, qui est en France une des plus basses d'Europe. Faut savoir que cette TVA, c'est pas ce que je veux faire du tout, ce qu'on voudrait faire. Elle est jusqu'à 27% dans certains pays européens. Nous, on est à 20%. Il y a peut-être une marge de 2 points, par exemple.
Au fond, vous êtes assez hollandais. Vous êtes assez François Hollande. Vous avez vu les propositions de François Hollande. Je sais bien que vous ne voulez pas forcément rentrer à proprement parler dans la campagne, mais François Hollande, une de ses propositions phares, ces jours-ci, c'est de faire passer la TVA à 24%, mais de la faire passer à zéro, en revanche, sur les produits de première nécessité.
Oui. Il faut absolument protéger les produits de première nécessité. Mais il faut débloquer cet étau qui enserre tout le monde. C'est une des attentes prioritaires des Français. Et voilà, c'est mis en débat, que les spécialistes, les économistes l'évaluent. Mais il faut, j'espère, je vous l'assure, il faut que l'élection de l'année prochaine conduise un président qui si vraiment trouve une solution à ce sujet-là. C'est impératif, sinon ça va être très difficile.
Vous êtes inquiet de l'année qui s'ouvre ?
Je suis très inquiet. Tous les ingrédients actuellement qu'on a en face des yeux, c'est un ralentissement quand même de l'économie française. La consommation moteur de la croissance, elle est quand même pas très forte. Elle est atone parce qu'il y a cet attentisme. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile, d'autres qui économisent un peu parce qu'ils ont peur de la suite. La configuration actuellement, vous savez, mais toutes les campagnes politiques, les gens se mettent un peu en précaution et attendent la suite. Et c'est jamais bon pour l'économie française. Et après, quand on entend plein de propositions, les premières, parce que maintenant ce qui nous intéresse nous, c'est de rentrer dans le détail de toutes ces propositions, on n'est pas rassuré.
Vous n'êtes pas rassuré.
À ce stade. Donc vive le débat, vive la confrontation des candidats, vive vos interviews dans les prochains temps.
Vous allez les recevoir, les auditionner, les rencontrer ?
Absolument, ça on le fait au niveau de notre fédération. On a décidé de recevoir l'ensemble des candidats des partis représentés à l'Assemblée nationale. On en a déjà reçu, on va continuer à le faire. Là, le but c'est quoi ? C'est de partager nos préoccupations comme on le fait ce matin et de pousser certaines idées.
Un mot sur la question de la transparence salariale dans les entreprises. Là, on parlait de la question de l'augmentation des salaires. Cette transparence salariale, ça sera présenté en Conseil des ministres demain. C'est une transposition d'une directive européenne, obliger les entreprises à être transparentes sur leur rémunération. Alors, pas dire qui gagne quoi dans quel bureau, mais donner la moyenne à poste égal qui gagne quoi. Et notamment, la différence entre les hommes et les femmes. Vous, dans vos magasins, est-ce que vous pratiquez cette transparence ? Est-ce que vous redoutez cette transparence ? Est-ce que vous avez quelque chose à cacher ? Vous en êtes où ?
On n'a rien à cacher. Déjà, ça, c'est sûr qu'on n'a rien à cacher. Maintenant, ça concerne dans un premier temps les très grandes entreprises. Donc, mes PME, les magasins, c'est des PME, hein, ne sont pas concernés dans un premier temps. Maintenant, tout ce qui contribue, je vais vous dire, particulièrement à l'égalité entre les hommes et les femmes, où nos chiffres sont plutôt bons dans notre métier, il faut avancer et il faut le faire.
Il faut le faire et il faut le faire de manière zélée, c'est-à-dire que certains chefs d'entreprise, notamment via le MEDEF, ont reproché au gouvernement d'aller trop loin dans cette demande. Vous, pour le coup, c'est pas le cas.
Alors après, voilà, faut donner un cadre raisonnable qui soit compatible avec ce que les entreprises peuvent faire, trouver le juste équilibre. Parfois, le défaut de la France, c'est par rapport à ce que demande l'Europe, d'en faire trop effectivement. Donc faut pas en faire trop non plus. Faut faire ce qu'il faut pour que l'égalité particulièrement avance.
Vous êtes à la frontière avec l'Allemagne. Votre propre magasin, oui, à vous, il est en Alsace. Comment vous avez réagi aux élections en Allemagne ? Est-ce que vous redoutez la période qui s'ouvre ?
Ben c'est une période très surprenante avec des déclarations qu'on entend effectivement dans ce pays effectivement que je connais bien, très surprenante et inquiétante. Maintenant, est-ce un cas isolé ? Est-ce le début d'un mouvement ? C'est toute la question. Mais vous savez, regardons les sondages aujourd'hui que vous commentez tous les jours. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Sous 50 ans, aujourd'hui, les gens mettent LFI contre Rassemblement National en France. Et c'est un peu au-dessus de 50 ans que, notamment, Édouard Philippe intervient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut parler...
Les plus jeunes votent davantage dans les extrêmes.
Voilà, mais il faut parler à ces jeunes. Il faut parler de leurs préoccupations, parler de leur avenir. Et aujourd'hui, certains le font. Ils ont les faveurs des sondages. Mais tout le monde doit s'adresser à eux avant tout. Et quand j'entends tous les jours, vous savez, ma vie est faite. J'ai tellement peur pour mes enfants et des jeunes préoccupés de la suite. À un moment où le monde est bouleversé.
Il
faut apporter des réponses.
Une rupture
concrètes.
Aussi de génération. Merci Dominique Schelcher d'avoir répondu à mes questions ce matin. PDG de coopérative U, des magasins U. Il est 8h50 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Dans un instant, les GG sur RMC. Jusqu'à midi, vous allez pouvoir débattre de l'actu. Quel est le programme, Alain Marchal ?
Eh bien, on va revenir sur ce qui s'est passé à Carcassonne avec la police municipale, les propos racistes tenus par un chef d'équipe. Est-ce qu'il est temps de faire le ménage dans la police municipale de Carcassonne ? C'est au 32-16 qu'on en parlera avec vous.